Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Foot Occitanie Show, l'émission 100% football régional, où pendant près de deux heures, nous allons débriefer le football de notre belle région d'Occitanie. Donc à mes côtés ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Fabrice Dubois, l'entraîneur de l'équipe Fagnon du Balmain FC. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Bonsoir. Nous accueillerons en suivant Bilal Haddad du FC Tarascon, un nouveau club de la ville de Tarascon en Ariège. Bonsoir Bilal.
Bonsoir Vincent.
Voilà. Et à partir de 21h, nous recevrons Rocadir de Rosès et en suivant Maxime Castillo du Gaillac Club Huchot, un club gardois. Durant toute l'émission, pour m'épauler, j'aurai l'honneur d'être épaulé par notre Daniel Riolo, à nous, Cyril Durand. Donc Cyril Durand étant le webmaster de footoccitanie.com, qui nous fera vivre en fil rouge quelques rencontres, donc notamment une rencontre de Ligue 2 entre Nîmes et Quevilly, et deux rencontres de National entre Rodez et Créteil et Béziers-Avranches. Et il nous donnera le résultat régulièrement d'un match qui intéressera fortement Fabrice, les Herbiers Cholet, puisque rappelons-le, la semaine prochaine, samedi 11 novembre, en fin d'après-midi, Balmain FC, pour le 7e tour de la Coupe de France, recevra le club de National, les Herbiers, dans son stade fétiche. Voilà. On fait l'émission une toute nouvelle rubrique où nous ferons quelques annonces des clubs. Les clubs nous ayant demandé d'annoncer quelques manifestations. Voilà, donc pour commencer, je vais laisser la parole 2 minutes à Cyril pour nous présenter les matchs du soir.
Faites comme si j'étais pas là, les gars. On se détend. Donc, comme tu le disais, Vincent, bonsoir tout le monde. 3 matchs à domicile pour les équipes de la région Occitanie ce soir. Nîmes Olympique reçoit Quevilly-Rouen, Nîmes Olympique actuellement 3e sur le podium de la Ligue 2 contre Quevilly-Rouen qui est à 19e avec 5 petits points et vraiment mal embarqué, donc des points peut-être à prendre pour Nîmes Olympique, mais comme Quevilly a besoin de points, attention au piège. Rodez qui est leader actuellement du National 1 reçoit Créteil qui est classé actuellement à la 13e place, donc Rodez aussi voudra prendre les 3 points pour conforter sa place de leader du National et encore rêvé de Ligue 2. Par contre, Béziers reçoit Avranches. Béziers qui a chuté à la 6e place et qui a besoin de relancer la machine après sa dernière défaite contre Marseille et Consola et qui devra s'imposer contre la lanterne rouge, l'US Avranches. Voilà pour les matchs de la soirée. Très rapidement, en Ligue 2, ont lieu actuellement Auxerre GFC Ajaccio. L'Athletic Club Ajaccio reçoit Châteauroux, Niort, Clermont, Orléans, Sochaux. Le Paris FC reçoit Lorient, Tours reçoit Bourg-Péronas, Valenciennes reçoit Brest. En national, Boulogne reçoit Dunkerque, Chambly reçoit Marseille, Consola, Concarneau reçoit Pau, l'Entente Saint-Gratien reçoit le Red Star, et enfin les Herbiers reçoivent Cholet. On souhaite que les Herbiers fassent un bon score pour Rodez cette semaine, mais pas la semaine prochaine. Enfin, pour être complet, en Ligue 1, Rennes recevra Bordeaux, coup d'envoi à 20h45. Voilà l'instant pour les matchs de la soirée.
Merci Cyril, donc chaque fois qu'il y a un but, n'hésite pas à intervenir. Donc, voilà, impeccable. Donc pour commencer, nous allons donc parler du Balmain FC. Nous avons l'honneur d'avoir ce soir parmi nous Fabrice Dubois, donc l'entraîneur de l'équipe Fagnon. Donc Fabrice, avant de parler de ton club, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ta carrière footballistique?
Ma carrière footballistique, oui. D'entraîneur.
Oui, d'entraîneur. joueur un petit peu.
Ouais, mais joueur, c'était assez rapide. J'ai fait 2 clubs. C'est la JSC Union et l'US Colomiers. Donc, j'ai joué jusqu'en CFA2, donc l'appellation un petit peu de la saison dernière. Et après, une grosse carrière quand même en DH, en priorité. Et après, entraîneur, là, j'avais commencé à La Farouette, un club de quartier de Toulouse, où j'avais passé mon service militaire, j'en avais profité. De là, j'ai fait la même carrière qu'en tant que joueur, puisque j'entraînais, je jouais dans le même club. Donc, à Cugnot, pendant une dizaine d'années, 12 ans à l'US Colomiers, les U17 et les U19 nationaux. De là, je suis parti au Giroud, en DH. Là, j'ai fait mes classes en senior pour la première année. Et depuis 4 ans maintenant, je suis à Balmain.
D'accord, donc Balma qui évolue donc cette année à National 3. D'accord.
Voilà.
Donc est-ce que tu peux donc Balma effectivement un club vous avez fait un très bon début de saison, hein. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les résultats de ce début de championnat?
Très bon, non. On a fait un bon début de saison.
Oui, mais enfin, quand même.
Voilà, il est pas très bon, mais vu toutes les péripéties que l'on a eues depuis le départ, puisqu'on a quand même enchaîné les blessures, les départs un petit peu imprévus, on est à 10 points aujourd'hui. Notre seule défaite, c'est le premier match à Blagnac, qui était pas
très bon. Mais vous êtes à
mérité.
7 points du leader, Toulouse, TFC2.
Ouais, et 5 points de la relégation aussi, donc de la zone rouge. Donc on est situé en milieu de classement, c'est ce qui correspond un petit peu à nos contenus et nos prestations depuis le départ. On a fait peut-être un match nul de trop, ou qui aurait pu se transformer en victoire, quoi.
Voilà, vous avez donc 2 victoires, 4 matchs nuls et une défaite.
Voilà, tout à fait, hein, et on s'est déplacé sur les 7 matchs, on s'est déplacé 4 fois.
D'accord. Et du coup, le week-end dernier, vous avez tenu un échec, Luzenac, donc sur vos terres, 0-0.
Ou c'est Luzenac qui nous a tenu un échec.
Oui, mais alors qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe? Parce que en début de saison, quand même, on annonçait Luzenac. Je pensais que Luzenac serait au-dessus du lot. D'ailleurs, avec Cyril,
On n'était pas d'accord du tout.
Ouais,
là tu vas me réveiller, attention. Moi, en début de saison, j'ai été clair. Pour moi, il y avait deux équipes de par le recrutement. Et après, autant les uns et les autres jouent le jeu avec le site, donc j'ai de très bons contacts avec eux. Donc voilà, je me mets en porte-à-faux vis-à-vis de personne, mais j'ai une franchise qui fait, voilà, ma réputation maintenant. Moi, il y avait deux équipes qui à mon sens, font un peu avec les moyens du bord. Luzenac, dans le recrutement, on va dire que c'était un peu light, on va dire. J'avais beaucoup d'espoir envers un petit gars que Fabrice connaît maintenant, c'est Gordon Miller. Voilà, qui est arrivé de Colombier, qui avait signé à Luzenac. Et bon, pour en avoir parlé avec Luzenac, je trouvais que le garçon était intéressant, mais il a changé depuis de couleur. donc voilà, il s'est engagé avec Balma. Et l'autre club qui me paraissait être un peu plus léger, j'ai envie de dire, c'est Castanet-Toulouvain, qui a perdu Cardinali, qui est vraiment un gros morceau en pointe qui est parti à l'Est colombien, et qui en plus, comme Balma a eu des pépins au niveau des blessures, et notamment de leur gardien Aïchef Garcia, pour ne citer que lui, donc c'est vrai que c'était deux équipes qu'on sentait où ça allait être un peu compliqué, parce que c'est vrai que bon, étant du secteur Languedoc-Roussillon, on savait quand même qu'il y avait de sacrés bébés, et notamment l'un des deux promus qu'on a en Roussillon, qui est pour l'instant sur le podium, qui avait fait des recrutements avec d'autres moyens que le LAP ou l'USC, quoi. Voilà, pour être clair. Donc c'est vrai que moi, ça me surprend pas plus que ça, au niveau du LAP et le Castanet, je leur souhaite de prendre les points rapidement. Ils pourront pas les prendre ensemble demain, ils se rencontrent.
C'est ça, voilà.
Donc malheur ou perdant déjà, premièrement, et puis après pour la suite des événements, mais c'est sûr que... Enfin, moi je me suis mouillé là, pourtant c'est deux clubs que j'apprécie énormément,
mais sur le papier j'ai pas trouvé. Voilà, mais qu'ils me fassent mentir, c'est tout ce que je leur souhaite. Hein. Bon, ouais. Ben, on verra demain soir... On verra à partir de 20h ce que ça a donné. Donc on va revenir donc sur ton club, Fabrice. Est-ce que tu peux nous, pour nos auditeurs, un peu présenter le Balma SC un petit peu, que les gens apprennent à connaître ce noble club?
Ben, Balma, c'est un club que j'ai découvert en y rentrant. Je le connaissais de l'extérieur. Ça fait partie quand même des meilleurs clubs régionaux. Ils ont un petit vécu en CFA de 7 saisons, je pense. Et depuis qu'on est descendu donc de CFA à CFA2, je crois qu'on attaque la 9e saison à ce niveau-là, avec l'espoir un jour de peut-être regoûter à l'étage au-dessus, mais pour le moment il faut stabiliser. Ma venue à Balma, moi, elle s'est fait autour d'un projet surtout. Les dirigeants souhaitaient repartir sur un projet de formation, rebâtir un projet club un petit peu. C'était un véritable chantier, on avait les 17 ans en district, on avait beaucoup d'éducateurs qui avaient quitté le navire,
il n'y avait plus trop de liens entre les catégories, malgré un travail de Paul Raymond, qui est aujourd'hui mon adjoint, et qui avait quand même un petit peu nettoyé tout ça. Et il a fallu repartir donc sur ce gros projet club, en mettant toutes les catégories sur le même fil conducteur, et la même ligne de conduite un petit peu. Donc c'est quelque chose qui porte ses fruits aujourd'hui, puisque l'équipe est toujours au même niveau, donc on a réussi à stabiliser un petit peu ça, avec un groupe de joueurs qui est avec moi depuis 4 ans maintenant, la grosse ossature de l'équipe 1, on attaque notre 4e saison ensemble, et surtout le gros point d'honneur, et là-dessus on est fier, c'est la montée des 17 ans au niveau national, puisqu'on était en district il y a 3 saisons, et on est monté chaque saison en fait.
Ça veut voilà. Dire effectivement que vous avez donc un réservoir du coup,
On va le créer maintenant, et c'est surtout qu'on n'a pas de fuite, on avait des U15 élites, et chaque saison, ils quittaient le club pour aller jouer en 17 ans sur les clubs aux alentours. Il y avait Rodez, il y avait Colomiers, il y avait Muret qui était en nationaux. Ces clubs-là sont descendus, et nous, on a récupéré un petit peu tout ça, et ça met de la continuité, on va dire, dans notre projet, quoi. À la fin des U15, les joueurs vont rester petit à petit, et aujourd'hui, on peut proposer des 17 ans nationaux à Balma.
D'accord. Au niveau des U19, vous êtes à quel niveau?
On est en Honor League. Donc c'est le plus haut niveau. Là, on souhaite, pareil, y rester, puisque les meilleurs U19 ne jouent pas sur cette catégorie. Ils sont en équipe 2, voire en équipe 1.
Alors l'équipe 2, je rappelle, qui évolue donc en promotion d'honneur. Et si je ne me trompe pas, tu me le confirmeras Fabrice, ils sont 5e.
C'est ça. Il faut un début. Ils ont leur première défaite la semaine dernière. C'est dommage, à Villefranche. On espère se rattraper dès demain, parce que là, on joue la montée, par contre.
Oui, donc en régional 2.
Voilà.
D'accord, tu as un groupe senior de combien d'éléments?
22 joueurs.
D'accord.
20 joueurs et 2 gardiens de but, tous les postes doublés. Après, il y a l'intégration de quelques jeunes. Bon, là, on est un peu plus complet parce qu'avec tous les problèmes qu'on a eu depuis le départ, on a intégré beaucoup plus de joueurs. Donc là, ça commence à rentrer, mais en gros, 22 joueurs.
D'accord. Bon, donc effectivement, lors de blessures, les postes sont doublés, donc effectivement, ça t'aide beaucoup. Cyril, je te donne la parole parce que si je ne me trompe pas, il y a un but du côté de Nîmes.
Ah, il a l'œil, le gars. Ah, le gars,
Oui, Cyril, tu vois, malgré le problème de vue, je vois un petit peu quand même.
Il est partout, je te laisse faire, alors, il n'y a pas de
soucis. Non, vas-y, Cyril, non.
Moi, je t'écoute, il n'y a pas de
soucis. J'ai vu que les Nîmois, tu pourras me dire le nom du buteur, parce que je ne l'ai pas retenu, Cyril.
C'est l'inévitable Oumoud Bozok, bien entendu, français de Marseille Consola, qui ouvre le score pour Nîmes Olympique, 14e minute, Nîmes Olympique 1, et qui vit au 0, autre équipe à avoir ouvert le score en Ligue 2, c'est Bourg-Péronas qui est allé ouvrir le score chez la Lanterne Rouge, Tour qui est vraiment très mal en point. Donc 1-0 pour Bourg-Péronas sur le terrain de Tour. Pau a ouvert le score puis doublé la mise en national sur le terrain de Concarneau. Pau qui mène 2-0. Enfin Chambly a ouvert le score contre Marseille Consola. C'est une surprise, 1-0 pour les Picards sur toutes les autres pelouses. C'est 0-0. Et pour en revenir à ce que disait Fabrice et vous étiez Balma, moi je suis admiratif des résultats des U17, que ce soit sur le représentant de Midi-Pyrénées ou de l'Angleterre, donc les deux promus d'ailleurs qui se sont joués, qui se sont piqués sur un score de parité, c'est-à-dire le SC Balma et la S Lata, c'est des clubs qui n'avaient pas d'équipe en championnat nationaux, qui sont partis un peu des bas-fonds de leurs championnats départementaux ou régionaux pour finalement arriver en Honor League et finalement en National. Et c'est vrai que ce début de championnat de Balma, quand ils ont joué, après Fabrice me contredira si j'ai une bêtise, mais quand ils ont joué contre les équipes dites de la partie basse du classement, il n'y a pas eu photo et on a bien compris que Balma avait les armes pour se maintenir à ce niveau. Si je me souviens bien, 4-0 contre la Valette qui était également promue. Une victoire en Corse, où c'est jamais évident, contre l'UGFC Ajaccio, quand même, qui est une club de Ligue 2 et qui est reconnue. 3-0, c'est ça, Fabrice?
3-0 là-bas, oui.
3-0 en Corse, donc il faut aller les mettre aussi, 3-0. Et puis la semaine d'après, où on s'est dit, là, attention, il y a un gros test, parce qu'il faut rappeler quand même que dans la poule, c'est le TPC qui est largement en tête puisqu'il compte maintenant 5 longueurs d'avance sur le club formateur de Herbel et 7 sur l'AS Monaco, rien que ça, après 9 journées seulement. Donc on va appeler ça le petit PSG des U17 nationales, hein, le test est largement au-dessus. Et pourtant, eh bien, ça s'est joué sur un petit but, parce que dans le derby de la Haute-Garonne, qui s'est joué il y a 15 jours de ça, le test ne s'est imposé qu'un but à zéro à Valva. Donc moi je suis admiratif vraiment du boulot qui a été fait. Et très honnêtement, voilà, ça va se jouer à pas grand chose. Et dans les pronostics, on avait dit de notre côté que le Gazélec d'Ajaccio et Bastia avec mes aventures qu'on leur a connues au niveau du centre, c'était cuit, que la Valette, ça allait être peut-être faible, et que la dernière place, donc, pour la 11e, moi j'avais dit Balma Oulat. Et que ça allait se jouer justement entre les deux promus, quand on garderait un des deux. Donc, pour l'instant, c'est pas trop loin de la vérité, j'espère très honnêtement que les deux se maintiendront à la faveur de la place de meilleur 11e, parce que vraiment très admiratif du boulot, et du coup,
surtout qu'ils ont annoncé, je crois, au niveau des règlements, qu'il y aurait que 3 descentes, je pense.
Donc, nous, on
a ciblé, on sait qu'on reçoit Bastia la semaine prochaine, qui est un match qui est capital pour nous. Et voilà, on a ciblé nos adversaires. Mais après, c'est une équipe qui va monter en puissance, parce que là, ils découvrent un niveau. Tout, le TFC, on prend un but sur un coup franc. Bon, il n'y a que Montpellier où on a explosé complètement. Mais après, tous les matchs, je les ai vus, on n'est pas loin de quelque chose d'intéressant. Donc, je pense qu'il y aura 3 adversaires derrière nous et qu'on fera une saison où on va monter en puissance. Je l'espère en tout cas.
Allez, la Valette, le Gazélec et Bastia, pour nos amis corses, ça va se fâcher, mais on va se mouiller quand même. Voilà.
Alors, Fabrice, demain soir à 18h30, vous avez un lourd déplacement à Mende, donc une équipe qui est en haut du classement. Est-ce que as-tu préparé ce déplacement et comment sont les forces en présence à 24 heures de cette rencontre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors nous, on est dans la continuité au niveau de l'effectif, on essaye d'équilibrer un petit peu tous les niveaux de forme, puisqu'il y a des joueurs qui rentrent. Là, on récupère demain dans le groupe un joueur qui n'a pas joué depuis 3 mois, qui s'était fait une luxation de l'épaule. Donc, on a un joueur suspendu aussi. Et mais comme Cyril, un petit peu, je considère que Mende et Canet-Roussillon, depuis le départ, je les annonce comme les deux favoris de ce championnat. Mende qui a fait quand même une grosse saison la saison dernière dans la poule H, je pense que c'était... Et ils ont failli monter en CFA, et Canet-Roussillon avec leur recrutement, leur équipe, je connais un joueur qui me donne quelques infos à chaque fois là-bas,
Qui est là-bas? Je vais les voir demain contre Blagnac, si je lui
dirai une... Il joue pas trop, donc.
Ouais.
Et donc, ouais, c'est une grosse équipe, donc il y a pas de souci par rapport à tout ça. Et nous, on va essayer de s'étalonner par rapport à ça. On a un mois de novembre qui débute, eh bien, à Mende, on reçoit les Herbiers la semaine prochaine, on reçoit le TFC, on va à Fabregue, donc on va pouvoir
bouger sur le calendrier. Un mois de novembre très compliqué, à commencer par demain à Mende, effectivement, où en préparant l'émission, tu me disais que il vous manquera votre attaquant, c'est ça?
C'est notre milieu de terrain, mais il marque tellement de buts qu'on le considère comme un attaquant. Il est suspendu sur ce match-là.
Il est suspendu, d'accord. Donc demain ce match, on espère que vous irez vous ramènerez une victoire du côté de Balma et puis la grosse fête donc la semaine prochaine avec votre 7e tour de la Coupe de France où vous recevrez le club de national des Herbiers. Donc alors rappelez-moi c'est 18h30 hein, c'est ça samedi
18h30 à Balma.
Voilà et c'est vrai que vous avez ça c'est très bien pour le football régional, vous vous êtes entendu avec Tournefeuille. Tournefeuille qui recevra les Chamois Niortais, donc Tournefeuille Niort à 15h et vous à 18h30.
Tout à fait. C'est avec ça, le coach Momo Bouamama qui est le coach de Tournefeuille qui m'a appelé de suite après le tirage. Et on voulait tous sauf vous en même temps. Donc,
d'accord, mais c'est très bien pour le football régional, bravo. Et alors, est-ce que tu peux, avant de parler de cette rencontre et nous dire un peu comment tu vas la préparer, quel engouement ça va créer dans la ville, au niveau du club. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu votre parcours pour arriver jusqu'à ce 7e tour?
Alors, notre parcours, il est poussif en coupe. On est passé à chaque fois par la petite porte. On a éliminé Segalari au Pérou. qui est une équipe de PH, 2-1, on était mené 1-0 à la 70e, donc c'était dans l'Aveyron. De suite après, on est allé jouer un dimanche après-midi à Grouillé, contre une bonne équipe de Grouillé qui nous a posé beaucoup de problèmes. On n'a pas réussi à marquer, donc on a fait 0-0, on s'est qualifié au tir au but. De là, on a reçu Lourdes, qui est leader de DH chez nous, donc une bonne équipe aussi avec un très bon attaquant. Et là, on fait 0-0, on faisait un bon match, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et on se qualifie à nouveau au tir au but. Et sur le sixième tour, on reçoit l'équipe de Florence, qui est pas très bien classée en DH, qui est promue. Et là, par contre, voilà, on a mis toutes les occasions, mené 3-0 à la mi-temps. C'est un match qui a été rendu facile par notre efficacité, quoi. Voilà. Et on finit 5-0.
Oui, nous avions reçu effectivement, il y a 3 semaines, en 15 jours, pardon, le président de Florence, juste avant de vous rencontrer. C'est vrai qu'il nous disait que ça serait un déplacement très très difficile. Et ce le suit pour les Florentins qui sont en bas de classement, donc en régional 1. Donc par rapport à votre réception des Herbiers, est-ce qu'il va y avoir cette semaine donc qui arrive une préparation particulière ou pas?
Non, juste une connaissance un petit peu de l'adversaire, comme on disait sur le tirage au sort, c'est quelque chose qu'on n'a pas joué encore, un national, même sur les 7e tours. Donc on est à la pêche un petit peu aux informations, on va essayer de donner le maximum d'informations aux joueurs, et après on va créer un petit engouement au sein du club surtout, voilà, on va rassembler tout.
Alors
le club.
À quel niveau, justement?
L'engouement, les joueurs de l'équipe 1 sont parrains déjà des équipes de jeunes, donc déjà toute cette semaine ils vont aller rendre visite à leurs jeunes joueurs pour les rassembler pour samedi. On a un plateau de U6-U9 qui sera organisé à partir de 15h30 aussi sur le terrain, donc on aura tous les jeunes sur place. On a nos 17 nationaux qui reçoivent Bastia à 17h, donc eux ils seront déjà sur le complexe, et voilà, ça va faire une belle journée football sur Balma, et on va rassembler vraiment tout le club.
Donc je dis à mes auditeurs, si vous ne savez pas quoi faire le 11 novembre en soirée, n'hésitez pas à aller du côté de Balma, vous aurez la possibilité de voir une belle rencontre de football. Donc au niveau engouement, c'est très bien finalement que le club mette en avant les jeunes, toute une fête. Donc effectivement la ville ça va être un engouement pour toute une ville, et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien.
Oui, c'est important, surtout que Balma
est... C'est très important, effectivement.
Balma est attaché à ça. Moi, j'ai dit, quand je suis arrivé à Balma, c'était vraiment pour ce projet club-là. Donc, on a rassemblé toutes les forces vraiment vives. Les dirigeants sont à fond là-dedans. Ils sont présents au stade, le président en premier. Donc, sur tous les matchs de jeunes, de féminines, on a vraiment un club qui se développe, et c'est vraiment intéressant, quoi.
Au niveau du public, est-ce que vous avez... Vous avez un public nombreux qui vous suit ou pas?
Non, ça c'est mon combat sur lequel je suis perdant depuis le départ. J'essaye de rassembler, on essaye de fédérer, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de matchs dans la région. Voilà.
Vous avez servi Fabrice et Zemeng Amanda, parce qu'au niveau du public, il tourne à 1000. Hein,
ouais, j'ai vu les vidéos, on sait à quoi s'attendre. Ouais.
Mandekané aussi.
Cané, il y a un petit cop, ouais.
Mandekané tourne à 1000 spectateurs de moyenne pour une National 3, c'est vraiment très très sympa.
Après, on n'a pas ça dans la région, même à National 2.
Après, Fabrice, effectivement, vous jouez le samedi soir à 18h30. Alors, ça sera d'ailleurs, lors d'une prochaine émission, un débat qu'on va lancer. Faut-il jouer le samedi soir ou le dimanche après-midi? Nos amis languedociens et Cyril, pour le dire, et je l'oublie tout le temps, jouent le dimanche après-midi.
Fabrice, lui, n'est pas concerné par le débat, puisque les compétitions nationales...
Oui, mais
au niveau de l'équipe réserve, voilà, l'année prochaine, je vais prendre l'exemple de la Régionale 1, et de la Régionale 2, puisque de toute façon, Fabrice avait son équipe réserve, sera soit un R2, soit un R3, hein, je ne les vois pas terminer 12e et descendre en district, ça m'étonnerait. Donc il sera concerné par le sujet, peut-être pas dès la première saison, puisqu'il y aura des poules qu'on va appeler hybrides, pour reprendre l'expression de nos amis de Salèche, des Comminges, qui nous ont fait des rêves à leur vidéo, ce sera une, des poules hybrides entre des clubs de Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées. Et nous, en Languedoc-Roussillon, 90% des matchs se jouent le dimanche à 15h, tandis que de votre côté, 90% des matchs se jouent le samedi 18h en DH ou dans les autres séries à 20h. Alors le problème, pour être clair, c'est que pendant des années au niveau des instances, Midi-Pyrénées a insisté justement pour aider les clubs à avoir des éclairages homologués. On a vu beaucoup de clubs dans les Hautes-Pyrénées, dans le Gers, dans le Lot, là, dernièrement, s'équiper d'éclairages justement pour pouvoir jouer le samedi. Tandis que nous, en Languedoc-Roussillon, on est plus sur la sécurisation des aires de jeu. Ça veut dire que même en deuxième série de district, on doit jouer sur un terrain grillagé avec couloir d'accès, etc. Par contre, au niveau des éclairages homologués, en équivalent excellence, il y en a très peu sur les terrains des 5 départements de Languedoc-Roussillon. Donc il y a eu une disparité des politiques entre les 12 ex-ligues. Maintenant, au niveau du mariage, ben, en régional 1, il y aura peut-être pas tant de problèmes que ça, parce que beaucoup de clubs de Languedoc-Roussillon sont équipés en éclairage. Et encore, j'ai envie de dire, je pense notamment à Saint-Estève, je pense à peut-être à Lissot, que ça va être compliqué de jouer en option. Mais après, quand il va y avoir des poules hybrides en R2 et en R3, ça va me sembler très problématique, parce que certains clubs ne jouent absolument pas les dimanches, de votre côté, et du côté Languedoc-Roussillon, certains clubs n'ont pas les possibilités d'accueillir le samedi, parce qu'il n'y a pas d'éclairage homologué sur les terrains d'honneur, notamment. Donc ça va être compliqué, ouais.
Alors j'espère, Cyril, qu'on trouvera une solution, mais personnellement, je te le dis, et on va voir ce que si Fabrice est de mon avis, je ferai jouer toutes les rencontres le dimanche après-midi. 15h, tu viens en famille, les joueurs à la rigueur peuvent manger ensemble, tu peux faire une animation au stade. Va jouer, Cyril, en fin décembre, du côté de Lectoure, avec moins 4 degrés à 20h, dans le stade, tu n'as personne. Par contre, tu joues le lendemain à 15h, et bien tu fais 300, 400 personnes. Alors,
Non, vraiment, je ne fais pas 300, 400 personnes, mais très honnêtement...
J'exagère un peu, Cyril, mais il faudrait poser la question quand même.
J'ai des joueurs qui, quand ils ont commencé à monter en DH, où tu commences à avoir, et il y a encore des cas cette année, où tu commences à avoir des rencontres le samedi, parce que certains clubs qui ont l'ambition de monter en championnat national prennent les bonnes habitudes et jouent souvent le samedi 18h et 19h. Il y a des gars qui, professionnellement, n'ont pas pu suivre, et sont restés tranquillement avec les copains, jouer en DHR, où bon, nous, on n'a que deux séries de ligues, donc ils sont restés en DHR ou en première série de district, parce que les gars savaient qu'au-dessus, ils ne pouvaient pas y aller, mais bon...
Ouais, voilà, mais du coup, le dimanche après-midi, ils peuvent, Cyril.
Dimanche après-midi, ils peuvent, bien entendu, ben, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. On joue le dimanche après-midi, nous, depuis que je suis né, j'ai envie de te dire. Donc nous, jouer le samedi soir, ça va demander très honnêtement, au niveau des collectivités locales, où on sait qu'à ce moment... Ça couine un peu, on va pas se voiler la face. De demander des éclairages homologués de partout et compagnie, je pense que les élus issus des districts de Midi-Pyrénées, qui sont à la Ligue, vont devoir clairement se gratter la tête. Hein, parce que même dans les clubs de Régional 2, très honnêtement, enfin, je vois 50% des clubs de Régional 2 aller voir maintenant la mairie et leur expliquer qu'il y a des travaux à faire au niveau de l'éclairage, parce que le club joue en R2 et que ça va jouer le samedi soir. Mais j'invite les élus ex-Ligue Midi-Pyrénées à aller voir nos élus là, les communes du Languedoc-Roussillon. Je pense qu'ils vont se poiler, quoi. Parce que pendant 10 ans, on leur a demandé des couloirs d'accès, des travaux dans les vestiaires, des grillages de telle dimension, tant de porte-manteaux dans le vestiaire des officiels. Attention, au niveau des terrains et des installations sportives, ça a été très 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 carré pendant un moment à Languedoc-Roussillon. Par contre, l'éclairage, rien du tout, quoi. Donc si maintenant on part sur autre chose. Au niveau des municipalités, je pense que les élus, qui ont fait beaucoup d'efforts pour certains, vont pas trop comprendre où on les amène. Donc là, ça va être un gros débat. À mon avis, au niveau du comité directeur de la Ligue, moi, j'aimerais pas être autour de la table, parce que ça va être extrêmement compliqué, parce qu'il y a des mentalités qui sont totalement différentes alors, sur ce sujet, totalement.
Fabrice, pour un terminer, tu en penses quoi de ce sujet?
Mais moi, chaque fois que j'ai une question, je me réfère toujours quand j'étais joueur, et quand j'étais joueur, je détestais jouer le dimanche. À 15h, donc, et quand je suis entraîneur, et bien c'est la même chose, quoi. Cette année, on n'a que Fabregue, je crois, de la poule qui joue le dimanche à 15h, et chaque année, j'appelle le coach pour le mettre le samedi à 15h, le samedi à 16h, au pire. Mais le dimanche 15h, c'est pour les joueurs et même pour les entraîneurs, c'est pour nous c'est un casse-tête hein, ici. Enfin, on n'aime pas ça.
C'est un débat qui, à mon avis, sera ouvert, mais effectivement, comme tu dis, Cyril, je pense que certains...
Moi, j'en ai deux de débats pour toi, mais c'est pas des débats, non. C'est le doublé de Mouzbozok pour Nîmes Olympique. Nîmes Olympique,
on
est maintenant 2-0 devant Quevilly-Rouen. C'est la première bonne nouvelle de la soirée. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Béziers vient d'ouvrir le score devant Avranches, 1-0 pour Béziers. Et si on peut rajouter une bonne nouvelle, c'est que le dauphin de Ligue 2, qui était juste une petite longueur devant Nîmes Olympique, la CA Ajaccio reçoit Châteauroux et est mené sur sa pelouse 1-0. Ça veut dire que Béziers a bien démarré la soirée et que pour l'instant, Lille est second de la Ligue 2, virtuellement en Ligue 1. On va prendre une photo du classement. On espère que ce sera là même après la 36e journée. Mais pour l'instant, ils sont bel et bien second de la Ligue 2.
Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour notre belle région. Fabrice, donc du coup, demain... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, pour une dernière question avant de te laisser d'autres occupations et notamment en famille, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pour nos auditeurs comment se passe un déplacement, par exemple demain à Mende, à quelle heure vous partez, est-ce que tu nous connaissez, comment ça se passe un petit peu?
Alors sur le déplacement de demain, oui, déjà il y a le choix de la route, soit on passait par Rodez, soit on passait par Montpellier, donc on a pris le plus court, on va démarrer à 10h demain matin. On mange à midi et quart sur Rodez. On va rester au Campanile jusqu'à 15h, 15h30. Et après, il restera 1h30, 1h45 de route jusqu'à Mende. Elle est pas évidente, celle-là, de Rodez jusqu'à Mende. Et on compte arriver vers 16h30, 16h45 à Mende et on joue à 18h30.
D'accord. Donc, et après, vous, collation sur place, j'imagine, après le match. Bon.
Voilà, il y a une petite réception et on rentre dans la foulée.
D'accord. Bon. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour demain. Alors, rappelons aux footeux hein, qui vont sur notre site et notre page Facebook. Hein. Fabrice Dubois nous donne régulièrement et je l'en remercie ses réactions d'après-match. Donc demain, après son match à Mende, vous aurez certes le résultat, mais aussi vous aurez une réaction que je mettrai sur la page Foot Occitanie 31. En tout cas, je te remercie Fabrice d'avoir accepté notre invitation. Bon courage pour demain et on est de tout cœur avec toi autant demain mais surtout la semaine prochaine pour le 7e tour de la Coupe de France.
C'est gentil. Merci voilà. Et bonne continuation et bonne soirée.
Merci Fabrice, à très bientôt.
Merci, au revoir.
Bonne soirée. Donc après s'être entretenu avec Fabrice Dubois, donc l'entraîneur du Balma SC, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Bilel Haddad du SC Tarascon. Donc Tarascon sur Ariège, une ville de 3300 habitants qui se situe à environ 18 km de Foix. Donc Bilel est venu nous parler de ce nouveau club, le SC Tarascon, qui a vu le jour en juin 2017, si je ne me trompe pas. C'est bien ça.
C'est bien ça.
Bon. Alors, rappelons pour la petite histoire qu'à Tarascon, du coup, il y a deux clubs. Le SC Tarascon, qui évolue donc en seconde division, et le FC Tarascon, qui évolue en championnat excellent. Donc, par rapport à la création de ce club, pourquoi avoir décidé en juin, ou bien avant, après, j'imagine, de créer un second club dans cette ville ariégeoise?
Alors, on a décidé en fait de créer ce deuxième club à Tarascon. C'est pas vraiment pour faire de la concurrence ou faire c'était pas vraiment le but. Le but à l'origine, c'était de créer donc une troisième équipe au club actuel qui est déjà en place. Alors, on a fait les démarches, on a contacté avec différentes personnes. Donc, moi, on a essayé de contacter. On ne voulait pas en fait d'équipe 3 à Tarascon. Donc, il y a déjà deux équipes. Donc, faute de moyens, les raisons, voilà, c'était les fautes de moyens financiers. Voilà. Nous, on a en fait accepté les raisons Et on s'est dit, voilà, on va créer ce deuxième club à Tarascon, malgré que certains pensent que c'est nul ou c'est pas forcément bien d'un côté. Mais il y avait une certaine jeunesse à Tarascon qui était forcément un peu lassée, qui était obligée de faire d'aller dans les clubs voisins, donc dans le FC Foix, l'Uzenac, etc. Nous, on a décidé un peu de rassembler tous ces jeunes de Tarascon et moins jeunes également, pour essayer, voilà, de créer un peu une certaine ambiance et une certaine valeur aussi de pouvoir jouer pour le club de sa ville où on a grandi. C'est un privilège. Donc aujourd'hui, on a su montrer un peu ces valeurs-là. On a créé ce club à Tarascon, et aujourd'hui qui s'appelle le Tarascon Sporting Club, et qui aujourd'hui donc fait un bon début de saison malgré voilà une reprise assez tardive, pas forcément une préparation dans la saison comme très sereine comme ont pu le faire d'autres clubs.
Alors effectivement, au niveau sportif, je le rappelle, donc le Tarascon SC évolue donc en seconde division, seconde de la poule. Est-ce que tu alors au niveau des victoires, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos résultats depuis le début de la saison? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu de bilan comptable?
Alors aujourd'hui, en fait, la première journée a été un peu difficile. Bon, on a commencé un peu. Je trouve qu'on a commencé un peu tôt le championnat, donc le 3 septembre. Bon, on a réussi quand même à faire un match nul pour le début, donc face à l'équipe de Saint-Girons 2. Et par la suite, en fait, on a gagné à l'extérieur, notre première victoire à l'extérieur, 4 buts à 1, alors c'est pareil pour la deuxième journée. Par la suite, donc, à la journée numéro 3, donc, on a fait un bon résultat face à Mirepoix, 4 buts à 1 à domicile. Et donc, la journée 4, donc, s'est terminée. Donc, à l'extérieur, on a fait un résultat de 3 buts à 0 à Monteau 2. Et récemment, donc, le week-end dernier, donc, une victoire 2-0 face à les AT 2. Et aujourd'hui, donc, on a un bilan comptable donc de 13 points, donc deuxième du championnat avec 18 buts et 7 buts encaissés.
D'accord. Donc, second du championnat. Et justement, ce week-end, vous vous déplacez donc chez le leader, le Clan Torel, donc demain soir à 20h, pour le match au sommet de cette seconde division. Avec quel état d'esprit vous y allez, avec les forces, vous avez toutes vos forces vives? Comment vous avez préparé ce déplacement hors cours, hein, parce que tu me disais avant l'émission que vous aviez un déplacement de 35 km, mais comment vous avez préparé ce premier choc pour vous finalement, parce que c'est le premier choc de la saison? Comment cette semaine vous l'avez préparé?
Alors déjà, on a beaucoup d'attentes dans ce match, beaucoup dans la semaine, ça parle un peu dans les cafés, un peu partout dans Tarascon. Donc on a ce choc, donc on l'attend beaucoup. Il y a beaucoup qui, voilà, jouer le premier, c'est là aussi, c'est une très bonne chose. Mais voilà, on le prépare aujourd'hui avec sérieux. Et surtout, on y va pour faire un résultat. Donc voilà, les choses commencent déjà demain. Après, il faut pas oublier aussi que le week-end suivant, on a la Coupe de l'Ariège 1 qui commence aussi. Bon, on veut essayer quand même de faire les matchs, les chocs arrivent, quoi. On peut dire que là, les sérieux arrivent, les matchs s'enchaînent. Et donc, cette semaine, on a préparé ce match avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engouement pour essayer d'aller faire un résultat à l'extérieur.
D'accord. Donc il y a des. Alors combien de pour nos auditeurs, hein, combien de licenciés dans votre club?
Alors aujourd'hui, donc en quelques mois, aujourd'hui on a eu pas mal de licenciés qui sont venus. Donc Tarascon est vraiment connu là-dessus. Donc on a 39 aujourd'hui, 39 licenciés, donc 11 dirigeants. Donc voilà, aujourd'hui on a pas mal de monde. Et bon, on espère encore, voilà, les saisons qui vont suivre, donc on est en train de se structurer. C'est un bon début. Pour moi, je trouve que c'est un bon début pour le club.
Donc, uniquement une équipe senior, c'est bien ça?
Voilà, aujourd'hui, on commence avec une équipe senior. Plus tard, voilà, peut-être des projets à venir, donc des projets de l'école de football et tout ça. Il ne faut pas oublier là-dessus aussi de se pencher. Et bon, aujourd'hui, on est en train de quand même de se structurer. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de salle de convivialité. Donc, ça, c'est à signaler. Donc, c'est vraiment, on part de zéro à... Et aujourd'hui, on a au futur, on espère avoir une salle pour pouvoir déjà faire des réunions dans de bonnes conditions.
D'accord. Alors, du coup, comment vous vous réunissez? Je t'entendais parler tout à l'heure de café. Vous allez, après les matchs, vous allez au café. Comment vous faites, du coup, pour la troisième mi-temps, pour vous réunir? Comment ça se passe?
Alors, malheureusement, aujourd'hui, on est obligé soit d'aller dans un café se réunir, ou soit vraiment voilà d'aller chez quelqu'un voilà qui puis on discute entre nous voilà c'est vraiment très compliqué aujourd'hui dans la situation, mais bon, à l'avenir je pense que on devrait trouver des solutions avec la municipalité et essayer de trouver des solutions là-dessus. On part de zéro, il faut savoir attendre et savoir patienter.
Tout à fait. Justement, j'allais y venir, la municipalité vous a aidé à quel niveau? Comment elle vous a soutenu?
Alors la municipalité, donc voilà, au départ, c'est vrai que c'était pas forcément leur intention. Leur intention était plus voilà d'essayer de trouver une solution avec le club actuel. Et malheureusement, on n'a pas trouvé voilà de compromis là-dessus. Mais elle a fait quand même beaucoup d'efforts, donc avec une subvention exceptionnelle, puisque les subventions normalement sont bien avant, hein. Donc on a eu quand même une subvention d'ailleurs exceptionnelle, et on nous a soutenu là-dessus aussi, parce que l'accès au stade, voilà, il nous fallait un stade, des vestiaires, donc voilà, tout ça c'est important d'avoir pour le club.
Et donc vous jouez sur les installations, si je comprends bien, du FC Tarascon.
Voilà, aujourd'hui, on joue sur les mêmes installations que le Tarascon Football Club aujourd'hui. Donc, mais aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est des Tarasconnais. 95% des licenciés du club sont des Tarasconnais. Donc, c'est aujourd'hui, c'est quand même, par rapport à l'autre club, c'est un avantage que l'on a. C'est des Tarasconnais, c'est des gens du village et des alentours, ou des anciens Tarasconnais aussi, parce qu'il n'y a pas que des jeunes.
D'accord, donc c'est un club, si je comprends bien, c'est un club local.
Voilà, c'est surtout okay. Ça. Ouais, on a mis en valeur que c'était un club local. Bon, avec pas mal de Tarasconnais qui jouent ensemble aujourd'hui et qui peuvent pratiquer le football, leur passion. Voilà.
Pour les, alors, donc vous partagez les installations, hormis, j'ai bien noté, la salle de convivialité, comment vous vous arrangez du coup pour les entraînements? Vous avez trouvé un accord avec le FC?
Alors pour les entraînements, donc on a dû voilà trouver un créneau dans la semaine. Donc voilà, bien sûr, faut pas oublier bon que le TFC a également leur créneau, donc le mardi et le jeudi. Donc nous on doit trouver un créneau. On a trouvé un créneau le vendredi soir et on s'entraîne en fait tous les vendredis soirs. Voilà, donc c'est pas simple parce qu'il y a l'école de football, il y a tout ça, donc dans toute la semaine le terrain est quand même très sollicité, et donc en effet on a trouvé quand même un compromis là-dessus, voilà, on a un créneau, chacun a ses créneaux dans la semaine.
Et est-ce que ça va pas, à votre avis, poser un problème l'hiver pour les matchs du dimanche, parce qu'on sait que les pelouses, ben c'est compliqué. Donc des matchs tous les dimanches, comment ça va se passer à votre avis?
Alors nous en fait chaque week-end.
Est-ce que le problème a été soulevé par la municipalité?
Nous un week-end sur deux, on a accès au terrain donc pendant les matchs. Donc nous le dimanche après-midi, on joue tous les dimanches après-midi. Donc ça c'est un week-end sur deux. Et aujourd'hui, voilà, le terrain est vraiment sollicité. Donc nous, on peut pas, on peut jouer qu'un week-end sur deux. On a un entraînement par semaine. Voilà, on est vraiment très restreint. On peut pas faire moins, quoi, par rapport au terrain et tout ça. Voilà. Après, est-ce que aujourd'hui le problème, c'est que bon, à part Associarial, il n'y a pas que le football, il y a aussi le rugby. Donc il y a le rugby qui a un terrain, mais qui est au Moulin Neuf. Donc il y a deux terrains à Tarascon, et aujourd'hui on doit partager celui-là, le football.
D'accord. Voilà. Et alors vous avez dit tout à l'heure, on va développer le club, ce qui est très honorable, avec les jeunes. Mais du coup, est-ce que ça va pas poser des problèmes de logistique? Est-ce que ça va pas être compliqué, du coup, tous sur le même terrain? Parce que les enfants, on le sait très bien, s'entraînent le mercredi. Est-ce que ça va pas poser des problèmes, tout ça?
À ce jour, ça ne pose aucun problème. Mais le jour où il va falloir, c'est sûr qu'il va falloir, au bout d'un moment, faire une école de foot et tout ça, c'est vrai qu'il va falloir se poser vraiment la question. Donc aujourd'hui, à ce jour, on ne s'est pas encore projeté là-dessus. C'est voilà, on attend déjà donc de se structurer pour cette première saison, de fabriquer aussi cette équipe et se projeter plus tard. Maintenant, oui, ça peut poser des problèmes, mais voilà, aujourd'hui, on ne s'est pas projeté là-dessus. Donc je ne peux pas réellement dire voilà, est-ce que ça pose problème ou pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un terrain, c'est compliqué, mais c'était vraiment la seule solution aujourd'hui à prendre.
Donc vous êtes seconde poule, donc si vous montez, alors rappelez-moi Cyril, parce que là je ne suis pas calé du tout. Et je leur souhaite, le SC accède au niveau supérieur, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir des équipes de jeunes?
Non, c'est le supérieur. Donc on est obligé d'avoir une école de football pour accéder aux deux premières séries de district. Donc ce sera la départementale 1 et départementale 2 qui seront les équivalents excellents de cette première division. Et là, pour l'instant, le SC Tarascon joue en deuxième division, c'est-à-dire équivalent départementale 4. Donc il joue la montée dans la future départementale 3. Donc en départementale 3, une école de football n'est pas obligatoire, mais... on le sait très bien, s'ils veulent jouer l'accession dès la saison prochaine, en cas de montée, ben, il leur faudra se pencher sur le sujet, sachant que on a connu dans le district de l'Ariège une telle ascension. C'est un jeune à venir de Pamiers, qui est monté, et qui se retrouve maintenant avec l'obligation, donc il a failli ne pas monter à cause de ce problème-là, et qui est dans l'obligation de monter. Et de maintenir une école de football au plus vite. Voilà. Donc on a eu le cas sur la commune de Pamiers. C'est tout le bonheur qu'on souhaite à Miguel et à son équipe, c'est de monter le plus vite possible, mais ne pas se retrouver pris au dépourvu ou pris un peu par le temps, comme ça a été le cas des GIA. Voilà.
Au niveau des moyens, du coup, vous avez une subvention exceptionnelle, hein, ce que tu nous disais au début de notre intervention, ça vous a permis, est-ce que vous avez pu, du coup, avec cet argent qui vous a été donné, quand même couvrir tous les besoins? Parce que c'est très bien qu'un club, quand il se crée, il y a énormément de besoins. Est-ce que vous avez dû faire demander des dons? Comment ça s'est passé?
Alors, aujourd'hui, bien sûr, on peut dire que, voilà, malgré la subvention exceptionnelle, ce n'est pas suffisant. Simplement parce qu'il y a pas mal de frais. Donc nous, ce qu'on a fait avec tous les dirigeants, on a fait des cartes de membres au niveau, on en a fait pas mal et on en a vendu. Donc le fait, c'est que voilà, ces cartes de membres vont donner des avantages aux habitants. Donc quand il y aura un repas et tout ça, ils seront invités et donc d'autres avantages vont arriver. Mais voilà, les cartes de membres avec un don entre 10 et voilà, on peut donner entre 10 € et voilà, ça nous permet déjà de payer quelques frais, mais aussi on ne s'est pas arrêté là, il a fallu aller chercher différents sponsors qui nous ont aidés financièrement là aussi, et parfois même sans rien demander en retour. Donc déjà je tiens particulièrement et tout le club tient à remercier tous les sponsors par la même occasion, qui nous ont permis aujourd'hui de faire fonctionner le club. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas que la subvention, vraiment ce n'est pas suffisant vu qu'elle est exceptionnelle et qu'il faut déjà revoir
en fonction des licenciés et tout ça. On attend d'ici l'année prochaine si notre subvention pourrait arriver. Ça pouvait fortement aider le club.
Oui, effectivement. Et puis, bon, effectivement aussi, ces cartes membres vous permettent les achats de quotidien, parce qu'on sait très bien que les collations, les maillots, ça c'est pour chaque match, mais les maillots, tout l'équipement, les ballons, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Au niveau ambiance, donc du coup les joueurs qui ont rejoint ce club, c'était une bande de copains, c'était des gens qui voulaient jouer au football, qui s'y retrouvaient pas forcément au FC, qui sont venus chez vous. Comment ça s'est passé?
En fait, c'est surtout une bande de copains. Donc c'est des joueurs qui se connaissent. Ils se connaissent depuis tout petit, parfois, mais voilà, ils se sont retrouvés en fait éparpillés un peu dans différents clubs de l'Ariège. Alors d'autres vraiment parce qu'ils n'avaient pas le choix, et d'autres voilà parce qu'ils sont partis voilà pour un intérêt voilà financier ou autre. Et là c'est plus une bande de copains. Au niveau de l'ambiance, ils se connaissent tous. C'est vraiment jouer pour les couleurs de Tarascon. Ils ont vraiment l'envie, voilà, de retrouver. Donc aujourd'hui, ils ont l'opportunité donc de jouer pour les couleurs de Tarascon, le club où ils ont grandi, où ils ont pu. Donc c'est vraiment voilà des jeunes qui se connaissent vraiment tous.
Oui, donc effectivement, donc on a bien compris, c'est une bande de copains qui se sont retrouvés. Sous un même maillot, sous une même équipe pour effectivement vraiment défendre les couleurs du SC Tarascon. En tout cas, Bidel, on a bien compris la problématique. On a bien compris effectivement aussi que vous étiez un club soudé, une bande de copains et que vous vouliez progresser régulièrement, autant sportivement qu'administrativement. Et en espérant effectivement le soutien de la municipalité, de quelques partenaires et des supporters, puisque vous avez mis en place des cartes de membres. Et nous vous souhaitons de réussir dans cette aventure et pourquoi pas vous retrouver dans quelques années à un niveau supérieur. Et nous avons été très heureux en tout cas de mettre en avant cette initiative, parce qu'effectivement c'est une belle initiative. Vous êtes parti, comme on dit, de pas grand chose, et je vous souhaite de réussir dans votre démarche qui aujourd'hui on sait n'est pas évidente.
Merci.
Voilà. En tout cas, bon courage pour dimanche et nous suivrons les résultats sur notre site demain soir après votre déplacement à Plantorel. Nous espérons que vous ramènerez la victoire du côté de Tarascon. Merci Bilal et bon courage pour cette saison.
Eh bien, merci.
Cyril, c'est la mi-temps sur les terrains de Ligue 2 et de National, donc je te donne la parole pour nous faire un point sur les résultats.
Ouais, avec les bonnes nouvelles, donc les Olympiques qui, on le disait tout à l'heure, grâce à un doublé du Mouz Bozok, mènent 2-0 à la pause contre Quévilly Rouen, les autres scores en Ligue 2. L'AC Ajaccio, le Dauphin, est mené sur sa pelouse par Châteauroux 1-0. C'est une excellente nouvelle car pour l'instant, les Crocodiles sont second de la Ligue 2. Auxerre est mené par sa pelouse par le Gazélec Ajaccio sur le score de 1-0. Le Paris FC mène 1-0 devant Lorient. Encore une bonne nouvelle pour le moins politique puisque Lorient était juste derrière les Crocodiles. Niort est clairement pas de vue 0-0. Début qu'il y en a eu du côté d'Orléans ou Orléans. Et Sochaux se sépare à la mi-temps sur le score de 2-2. Début également partout entre Tours et Bourg-en-Bresse, Péronas. Et enfin, Valenciennes et Brest, 0-0. Aucun but n'est marqué pour l'instant. C'est la pause également à National où Béziers mène 1-0 devant Avranches. Une bonne nouvelle. 0-0 entre Saint-Martin-Gratien et le Red Star. Chambly mène 2-0 devant Marseille. Colsola, Boulogne-sur-Mer. Mène 1-0 devant Dunkerque, Pau mène à Concarneau 2-0. Match nul pour l'instant entre les Herbiers, futur adversaire de Balmain en Coupe de France, et le second classement Cholet, 0-0. Et enfin, score de parité également pour nos leaders ruthénois, Rodez, qui est toujours à 0-0 pour l'instant contre Créteil. Voilà pour les scores en Ligue 2 et nationale. On va dire que pour l'instant, avec deux équipes qui mènent au score et un match nul, c'est pas trop mauvais. On espère que Rodez va réussir à ouvrir le score contre les Parisiens de Créteil pour asseoir leur première place du championnat.
Et en parlant de but, les Rennais viennent sur un corner d'ouvrir le score contre les Girondins de Bordeaux au bout de 12 minutes de jeu. Donc, ceux qui avaient misé sur Rennes ou l'auto sportif peuvent commencer à ouvrir la bouteille de champagne avec un but contre son camp de Toulalan. Est-ce que Cyril, tu avais joué au loto? Est-ce que tu as joué au loto ce week-end?
Non, absolument pas. C'est pas mon
truc. Absolument pas.
Et voilà, on préfère pronostiquer sur les résultats des équipes de la région. Donc voilà, hein. Et puis en espérant demain de bons résultats pour nos équipes de National 2 et de National 3, puisque il ne faut pas oublier que c'est une journée complète dans tous les championnats seniors, nationaux, régionaux et départementaux, sur les 13 départements de la région Occitanie, donc plus de 700 rencontres seniors et plus de 1300 rencontres, donc des week-ends de seniors en passant par les seniors et le futsal, sont au programme du week-end avec tous les résultats bien entendu
sur notre site.
Robert,
à la fin des rencontres, et nous espérons que demain soir nous aurons le maximum de résultats et que à la sortie des vestiaires, les coachs prendront leur téléphone et nous
enverrons les résultats du match.
Et surtout, et aussi les réactions d'après-match.
Et Robin est là.
Et Robin est là. Donc nous allons passer dans cette seconde partie de l'émission avec nos clubs du Languedoc-Roussillon. Et nous accueillons Romain, du club de... Alors, je vais le laisser prononcer parce que je me suis fait tirer les oreilles par Cyril parce que je ne prononçais pas bien.
Alors, le club du Razès Olympique.
Du Razès Olympique.
Non, mais le gars, c'est un Toulousain et vous appelle les Roses, quoi, tu vois.
Mais Romain, Cyril, on a les violets, quoi, hein, tu vois, bon.
Ouais, mais on n'est pas tous au jardin, là. Donc, l'Olympique, déjà, tu vois, ça te met à l'aise. Toi, et ton TPC, tes violets. Bon. L'Olympique,
oui.
Tu vois, ça te met à l'aise. Voilà.
Le Razès Olympique. Donc, si, voilà, alors, j'ai fait quelques petites recherches parce que, Cyril, je connais. Alors, Razès, c'est dans le département de l'Aude. Alors, par contre, je ne sais pas, par rapport à Narbonne, ça se situe où?
C'est complètement à l'ouest, c'est à 5 minutes de Limoux, on va dire.
D'accord, à 5 minutes de Limoux. Donc, merci Romain d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es dirigeant donc de ce club de Razès Olympique. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce club audois?
Ah ben, c'est un petit club avec des petits moyens et des petites structures, mais qui a réussi quand même à remonter en départemental 1. La saison dernière, en étant champion de l'Aude, de départemental 2. Et comment dire, c'est un petit club de copains, il y a une superbe ambiance, et où on essaye de se structurer petit à petit, année après année, et voilà. Voilà, voilà, on a remonté le club en 2010, qui a été à stand-by pendant quelques années.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, manque de moyens, manque de joueurs. Et du coup, on a fait une entente, on a réussi à se faire une entente avec un club à côté de chez nous. Et de là, on est reparti de la division 2 et on est arrivé là, jusqu'à cette année à des PH.
D'accord. Une belle accession, effectivement.
Année après année, voilà. Pleine de progression.
Le gars Vincent, ce qu'il te dit pas, c'est que le petit club a fait une équipe réserve et qu'ils sont leaders avec 4 victoires en 4 matchs. Mais le gars, il dit ça, tu vois, il te dit, ouais,
non, mais...
petit club.
J'ai regardé en préparant l'émission. On me dit petit club, ils sont très modestes. Tu es très modeste, Romain. Il y a l'année dernière, une belle ascension.
L'année dernière, il tape donc champion de première ligue de district. Donc bon, là, il monte en départemental E1, qui est l'équivalent pour Midi-Pyrénées de la PH de Ligue, quand même. Ouais. Voilà, donc rien que ça. L'équipe réserve, il la grimpe, il démarre par 4 matchs, 4 victoires.
Voilà, on est en train de restructurer l'équipe réserve parce qu'il y a un trop gros niveau d'écart et on a pour but de monter, bien sûr.
Voilà. Mais ma question, là, maintenant, puisqu'on va rappeler pour tout le monde et pour les copains de Midi-Pyrénées qui nous écoutent, c'est que si en Midi-Pyrénées, c'est descente à gogo, puisqu'on passe de 4 niveaux de Ligue à 3, et le contraire pour Languedoc-Roussillon, puisqu'il n'y a que 2 niveaux de Ligue cette année, et qu'il y en aura une troisième l'année prochaine.
L'année prochaine.
Donc, pour le district de Lens, concrètement, le troisième de départemental 1 ou de Razès Olympique, et accédera en régional 3, et que dans le sens inverse, il y aura 2 descentes. Donc, avec 3 montées, tous les espoirs sont permis, j'ai envie de dire. Vous êtes actuellement en milieu
septième.
À 4 points de la montée, à 5 points de la descente. Vous regardez de quel côté?
On regarde tout d'abord on regarde tout d'abord le maintien. Et ça doit adapter à ce niveau, surtout. C'était l'objectif sur les 4 premiers matchs, donc on fait 3 nuls et une défaite. Et on a enfin gagné la semaine dernière à Trèves. Et le temps de s'adapter, mais l'objectif principal est le maintien et la montée de la réserve.
Et donc, et dimanche, vous vous déplacez à Corbière?
On reçoit Corbière.
Ah, vous recevez Corbière, pardon.
On reçoit Corbière, et donc un prétendant, je pense, à la section 25. Voilà.
Donc une victoire
impérative
et en vue à l'occurrence. Donc, bon début de saison. Au niveau du club, combien avez-vous de licenciés en tout?
Alors aujourd'hui, on est, si je ne dis pas de bêtises, à environ 70 licenciés. Alors 40 seniors et 35-40 seniors. Et il faut une vingtaine de petits en U7, U9, U11, si je ne dis pas de bêtises.
D'accord, donc effectivement, on a bien compris, des équipes de jeunes. Au niveau des bénévoles, vous êtes...
On a
des bénévoles, c'est jamais facile, hein.
C'est jamais facile, c'est le plus compliqué, parce que moi je suis un joueur, normalement, mais blessé, donc j'ai repris l'équipe réserve. Mais oui, c'est pour dire à quel point c'est un club qui compte sur l'investissement des joueurs, des dirigeants, mais on est une dizaine de bénévoles impliqués dans le club. Et on était 4 bénévoles il y a 7 ans, quoi.
Voilà. Oui. Donc effectivement, ça vous demande beaucoup d'investissement.
C'est ça. Chaque membre du bureau, c'est beaucoup d'investissement personnel.
Alors, pour toi, par exemple, est-ce que pour qu'on se rende compte, hein, comment la vie d'un bénévole, comment ça se passe la semaine, combien de fois tu y vas, comment est-ce que tu peux nous expliquer à nos auditeurs qui se rendent compte que la vie d'un bénévole n'est pas toujours facile et qu'on fait avec les moyens du bord. Combien de temps tu passes au club?
Honnêtement, on va dire 2h30 le mardi, autant le vendredi, une journée complète le dimanche, et beaucoup, beaucoup de coups de téléphone à la semaine. Donc ça, on compte même pas les heures. Voilà, et c'est vrai que moi qui étais joueur, cette année, j'ai repris la type réserve, et être bénévole et s'encadrer, s'occuper d'une équipe, c'est quand même énormément de temps. Mais bon, après, si on fait ça, c'est avec plaisir, c'est parce qu'on aime le foot, hein, et le club. Voilà.
Oui, donc effectivement, et puis le week-end, les matchs, l'après-match. Bon,
l'après-match, c'est bien ça, ouais. On
essaie
de garder...
Ça, c'est surtout c'est important, l'esprit d'équipe, l'esprit de famille.
C'est ce qu'on veut garder, même si bon, le niveau change, mais c'est ce qu'on veut garder dans ce club, c'est ce qui fait notre force. Hein. C'est ce qui nous a permis de faire une finale de Coupe Favre aussi il y a 2 ans, on est monté l'an dernier.
Une finale de, pardon, j'ai pas compris.
De Coupe Favre, donc la repêche de la Coupe de l'Ode.
En gros, c'est l'équivalent de la Coupe du Conseil départemental du 31.
Voilà, comme
si je veux, enfin, il y a dans l'Ode, la repêche, comme dit Romain, c'est tous les éliminés. Au 8e de finale de la Coupe de l'Ode, de la Lopez. Donc, tu peux très bien avoir des équipes de DHR qui sont éliminées dans les premiers tours, qui participent à la compétition. Donc, c'est encore au-dessus des compétitions départementales 31, quoi. Parce que tu as des DHR avec des départementales
c'est les équivalents DHR et PHL, quoi. Donc c'est plus relevé que les compétitions districts que vous connaissez en Midi-Pyrénées. Voilà.
Voilà, mais on a réussi à faire ça il y a 2 ans. C'était bon, on l'a perdu, mais on était fiers d'en arriver là pour une petite équipe de surtout de départemental 2 à l'époque. C'était beau parce que bon, voilà, souvent c'est DHR et PH qui se retrouvent en finale et là on avait réussi à y accéder avec une chance de tirage bien sûr. On y avait arrivé, c'était super bien et je vous dis l'an dernier on a suivi sur cette lancée de la finale pour se mettre des objectifs de montée. Ça a été une grosse saison parce qu'il y avait Limoux en concurrence qui est quand même la grosse ville à côté de chez nous et où on a réussi à les dépasser quoi et à monter à leur place.
Oui, donc effectivement, un beau parcours en coupe ces dernières années. J'espère que cette année, effectivement, ça se passe.
Cette année, on a tout loupé en coupe.
Ah, mais, alors pardon, voilà. Est-ce que justement, j'avais pas regardé ça dans mes notes. Est-ce que tu peux nous en parler justement, comment ça s'est passé?
Mais, disons que début de saison compliqué au niveau des entraînements, de préparation physique, on va dire. Et on a eu un gros tir, on n'a pas eu de chance sur les tirages, on va dire, on a eu pris que des PH, quoi, des D1. Et on s'est fait éliminer au second tour de la Lopez, de la première coupe. Et au troisième tour, pardon. Non, au deuxième tour, pardon. Et on s'est fait éliminer en coupe Favre contre une division en dessous au troisième tour, ou au deuxième tour, je sais plus exactement, il y a 15 jours.
Donc voilà. il vous reste le championnat uniquement.
Le championnat uniquement. Oui. Ouais.
Alors est-ce que c'est pas forcément que c'est pas non plus un avantage parce que ça peut.
Si cette année c'est on pouvait pas être sur les deux tableaux on va dire. On pouvait pas jouer la coupe même si on avait l'intention quand même de faire au maximum pour continuer à jouer tous les week-ends on va dire. Mais on n'a pas eu de chance, on s'est fait éliminer, bon, c'est comme ça. Et du coup, on concentre tout sur le championnat, et sur le maintien de la première et la montée de la réserve.
Oui, donc l'équipe réserve, effectivement, qui fait un début de championnat extraordinaire.
Ouais, un très très bon début de championnat, un très bon état d'esprit. Mais bon, voilà, il y a quelques années que l'équipe n'était pas structurée, on va dire. Et on a essayé de mettre un peu de sérieux, et les résultats, pour le moment, sont là. Voilà.
Au niveau de l'effectif senior, vous avez un effectif de combien? Combien de garçons?
On a 35 à 40 joueurs. 35 à 40 joueurs avec quand même souvent des absents, mais on a un gros noyau de 28 joueurs. Quoi. 28 30 joueurs. Quoi.
Donc du coup, vous avez donc beaucoup de joueurs qui ne joue pas effectivement. Donc vous faites tourner, comment ça se passe? Parce qu'effectivement, il faut le gérer ça aussi. C'est pas facile quand il n'y a pas les coupes. Hein.
C'est vrai que c'est vraiment pas facile. Mais on essaye de faire en sorte de parce que bon, la départementale 5, c'est quand même que 9 équipes dans la poule. Alors on essaye de trouver.
Oui, j'ai vu que c'était une poule impaire.
Du coup, bon, il n'y a pas beaucoup de matchs, c'est tous les 15 jours, plus ou moins. Alors on essaye de trouver des matchs amicaux et de contenir une dynamique et pour faire jouer tout le monde et on essaye de faire tourner en suivant le nombre qu'il y a aux entraînements, les joueurs présents aux entraînements. Ouais, voilà.
D'accord, et donc effectivement ça se passe bien.
Ouais, début de saison, pas mal, on va dire. Pour la 2.
On vous souhaite effectivement une bonne fin de saison et on espère que. Enfin, au mois de mai, vous nous annoncerez que le maintien, et pourquoi pas mieux, de l'équipe 1, et surtout, j'ai bien compris, la montée de l'équipe réserve.
J'ai des questions.
J'ai dit ça. Oui.
Alors, oui, Cyril a une question.
Moi, je suis un peu la déconne, là. Tu vois, Vincent, il est super sérieux, il fait son truc, et tout, il est dans son
monde. Ah ben, Cyril, après, je vais poser une question qui, je pense, qui va peut-être te farcir.
Non. Mais il n'y a rien. Moi, je me souviens de cette finale, on va dire un peu inattendue, là. Sur un club comme Romain Lely, 70 licenciés, etc. Déjà, tu montes en élite départementale, c'est magnifique, tu fais une finale de coupe. Moi, j'ai le souvenir de... pourtant, je ne suis pas de l'homme, hein, mais du bureau de tabac, de la boucherie, je crois, je ne vais pas dire une bêtise.
Ouais, c'est
la
ça.
Boucherie du village avait des maillots dans les vitrines, mais on se serait cru à Calais ou à Pévilly Belle-heure de la Coupe de France.
C'est ça, ouais.
Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que voilà, tout à l'heure, on a accueilli, l'instant avec Fabrice Dubois, qui est entraîneur national 3, quand même. Là, tout à l'heure, on aura Maxime, qui est dans un club de DH. Et voilà, vous êtes en départemental 1, petit club, parce qu'il n'y a rien. Et il y a eu cet engouement et tout, au village que moi me fait rêver, c'est-à-dire qu'à la fin, t'as plus de public que la National 3 de Fabrice, ça c'est énorme. Et savoir si ça, derrière, vous avez réussi, bon, un tas d'esprit, groupe de collègues et tout, on a bien compris que c'est ce qui fait votre force et qui fait que du monde vous rejoigne maintenant. Mais si vous avez réussi à garder cet engouement par rapport au commerce du village, est-ce que j'ai envie de dire le papy du coin va venir vous voir jouer le dimanche parce que c'est rentré dans les mœurs, est-ce que le club est devenu un peu depuis l'animation du village, quoi?
Le club est vraiment l'animation du village et oui, c'est ce qui fait notre force, on va dire, à domicile, parce que bon, il y a le papy du village sur le bord du terrain, il y a les commerçants qui nous suivent tous, c'est vraiment l'attraction du village, surtout que bon, cette année, les matchs sont intéressants quand même, parce qu'il y a un bon niveau. Et c'est vrai que on va pas dire qu'on a 200 supporters tous les week-ends, mais oui, on a quand même une cinquantaine de personnes qui nous suivent, que ce soit la réserve ou la 2, et le stade est plein le dimanche. Le stade est plein, et c'est aussi ça qui, voilà, quand on se balade dans le village, tout le monde nous en parle, c'est le foot, et c'est vrai que ça fait 2-3 ans que le club fait plaisir aux gens, vu que c'est une bonne bande de jeunes qui est toujours respectueux de tout le monde, et je pense que voilà, ça marche, quoi.
Comme quoi, maintenant, voilà, donc ce soir, on a eu un entraîneur national 3 qui dit qu'il n'a pas de public et qui se bat pour, et tu as un club de départemental 1 de l'Aude et un club de deuxième division de l'Ariège, qui t'explique, qui règle ça au café, à la boucherie ou au tabac du village. Donc, quelque part, ça veut bien dire que le football de match et amateur draine pas moins, et des fois, on se demande s'il draine pas plus de monde sur le bord du terrain que certains clubs un peu plus gros.
Et je le confirme, Cyril, c'est bien de jouer le dimanche après-midi.
Ouais, on y revient.
Je pense que c'est quand même bien. Des fois, on se plaint de pas jouer le samedi soir par rapport au... mais on est content de jouer le dimanche.
C'est sûr, si tu joues le dimanche après-midi, tu peux pas te coucher à 5h du matin, où c'est pas très conseillé. Par contre, effectivement, le dimanche après-midi, quand il fait beau, t'as les enfants, la famille, papy, et mamie, papa, maman, qui peuvent venir. C'est quand même mieux, Cyril.
C'est exactement ça.
Ah, mais moi, je dirais le contraire. Moi, je te dis qu'à l'angle de Croussillon, on est très content de jouer le dimanche à 15h. Et c'est dit qu'on n'a pas envie de mettre des éclairages partout. Après, les équipes de la Ligue, c'est des brouillons. Mais on va pas rentrer. Tu vois, regarde, Fabrice, tout à l'heure, on te dit, nous, on se bat pour pas jouer le dimanche. Voilà, donc c'est un club du 31. Après, je sais pas comment vous voyez le truc. Moi j'habite à
Perpignan.
Il y a des Romains, on s'aime pas. Les Odois et les Catalans, on s'aime pas, déjà. Donc, tu vois, pour une fois, on est d'accord. Nous, on veut jouer le dimanche. Donc, maintenant, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste que le dimanche après-midi, c'est très bien. Parce que c'est dans les habitudes, on n'a pas envie de payer des éclairages partout. Et va dire à la mairie, à Belvèze, là-bas,
exactement,
payer l'éclairage homologué. Mais ils vont te regarder, ils vont te dire, oui, pas à la boucherie, toi.
Même si on n'est pas, je suis pas au sillon, Cyril, je te rejoins et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, ici, moi je suis donc à la région toulousaine, tu as 90 et voire 95% des clubs qui jouent le samedi et ne leur dis surtout pas de jouer le dimanche. Et je me suis battu durant mes années de dirigeant à Fenouillé à dire au président, si on veut avoir du monde dans les tribunes, il faut jouer le dimanche. Et il me répondait, le problème, c'est que les joueurs ne veulent pas jouer le dimanche.
Bon,
on va dire que nous, c'est dans la coutume. Hein, donc,
voilà, je pense que c'est ça, Romain. Je pense que c'est dans la coutume.
Ce qui fait qu'on arrive à avoir aussi du monde, c'est que bon, il y a quand même la réserve qui joue en ouverture souvent.
Et qui ramène déjà,
justement, c'est là où cette année, par contre, c'est quand même un peu honteux, on va dire, de jouer à 11h30, quoi.
Pardon? Très, 11h30?
11h30, les coups d'envoi, parce qu'il faut 4 vestiaires, sinon, on peut pas décaler les matchs, au moins à midi et demi.
Allez, voilà, on va libérer les vestiaires une heure avant. Et tu vois, Romain, faut dire les choses, quoi, voilà. Et au bout d'un moment, quand il n'y a pas assez de vestiaires, oublie, les clubs recevant, à recevoir à 11h30.
Veut dire rendez-vous au stade à 10h30, il faut être honnête, c'est quand même tôt. On
ça
a
veut dire qu'il faut que tu te lèves. Si tu veux pas avoir les jambes en vrac, il faut que tu te lèves à 8h, tu fasses un petit
Il peut manger quasiment un bon petit déjeuner. Non mais là, Cyril, en général, je râle pas et tu le sais contre les instances, mais quand même, effectivement, il faudrait peut-être faire quelque chose.
Il y a des choses qui arrivent.
Ouais, voilà.
Ouais, c'est exactement ça. Voilà, quand il y a un déplacement, s'il y a un peu de route, ça fait tout, quoi. Ça fait vraiment.
Et à la rigueur, pourquoi pas faire jouer l'équipe 2, pardon, midi voire midi et demi. Et tu décales l'équipe 1, tu l'as fait jouer à 15h30.
Alors, oui, c'est vrai, mais bon, après, voilà, les districts, c'est comme ça. Et nous, on fait pas les demandes après pour décaler les matchs parce qu'il faudrait le faire tous les 10 jours. Et on reste comme ça, bon, on accepte, mais c'est vrai que c'est compliqué.
Elle reçoit surtout combien de fois la réserve à 11h30 cette année?
Il y a vraiment 8 matchs.
Ouais, tous les matchs.
On est à... pratiquement toute la saison, quoi.
Ah, quasiment toute la saison. Ouais.
On a réussi à avoir un match à 15h, on en aura un autre justement contre le second, certainement,
à
15h aussi, Villa Savary. Ouais. Et après, bon, mais c'est 11h30, voilà. Et on fait avec, c'est compliqué, mais bon.
C'est vrai que c'est pas toujours facile, et c'est vrai qu'une fois...
Donc après, on pourrait se permettre de décaler les matchs, parce que bon, on a quand même des trous tous les 15 jours, mais... Après, au stade, forcément, ça fait un peu moins de monde pour la Lune, parce qu'il n'y a pas l'ouverture. Et ça fait un match, un entretien pour la mairie un peu plus compliqué, parce que ça fait un match par semaine au stade, et c'est compliqué.
Vincent, pour te recentrer pour le récit de réserve, ils ont 16 matchs dans la saison, puisque pour le résultat 9, si Romain m'arrêtera si je n'ai connerie, ils ont 16 matchs dans la saison, mais ils en jouent 9, coup d'envoi, 11h30. Que ce soit maison ou extérieur, hein, donc t'as compris... T'as compris le problème.
Moi, ce que je dis, Cyril, une fois de plus, hein, ce sont toujours les clubs qui trinquent.
Ah ben, faut trouver une solution, mais après, moi, je veux dire... Voilà,
mais il est grand temps, quand même.
Et le constat, c'est bien. Et le constat...
Ouais, il y en a qui sont forts.
Ouais. Romain, il est envahi, là. Fais les venir,
là. Ça y est, du côté de Razès, voilà.
C'est quoi, c'est coéquipiers qui pètent les plans?
Ouais, c'est les joueurs, ouais.
Ils ne veulent pas jouer en 0,5, en fait, c'est ça.
Ils attendent l'apéro.
Bah. Ils venir, là, les vedettes, là.
Romain, il nous reste 5 petites minutes. Je voudrais, et Cyril nous donnera son avis, puisque je viens de le lire, là, sur chez un confrère, que tu donnes un petit peu ton avis sur l'affaire Evra, qui vient justement d'être mise à pied par l'OM. Ce qu'on a dit hier soir...
C'est tombé.
D'accord. Mise à pied par l'OM. Je voudrais, toi, en tant que joueur, que tu donnes un peu ton avis. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, mais tout d'abord, déjà, en tant que supporter marseillais...
D'accord, mais t'as vu le nom du club? Est-ce que tu as vu le nom du club, déjà? Est-ce que tu loutais un instant qu'un supporter du PSG ou de je sais pas qui à y jouer à l'Olympique Lyonnais, jamais de la vie.
Jamais de la vie, exactement.
C'est tout vu, quoi. Tu as bien compris l'histoire. Quoi.
Non, oui, en plus, ancien abonné.
Justement, donc on a trouvé la bonne personne qui va vraiment nous donner, en tant que supporter olympien,
quel virage. Qu'est-ce que... Quel virage, Romain?
Virage au nord, bien que nord.
Ah, d'accord.
Il y a encore 2 ans sous la Bielsa, bon, maintenant j'ai lâché parce que, le dimanche, c'est l'occupation du football. Et voilà.
Et oui, et puis, les matchs sont décalés. Alors, Romain, du coup.
Bon, je trouve ça honteux, honnêtement. Il faut pas donner l'accord aux supporters parce que aussi, bon, voilà, il y a des insultes. Mais on va dire que ça fait partie de la vie d'un footballeur payé à 300 000 euros par mois, quand même. Je pense qu'il est capable d'accepter ça et d'aller, je trouve ça honteux, d'aller frapper nos supporters, même si c'est quand même honteux de cracher sur nos joueurs, mais c'est honteux. Allez, mettre un coup de pied quand même, je sais pas, mais voilà, c'est grave. À 36
ans, effectivement, à ce niveau-là, Cyril, une fois de plus, ça ne donne pas une bonne image du football et surtout à nos enfants. Non. Alors après, on se plaindra que quand on voit le dimanche un gamin faire ça, qui sera sanctionné, et ça sera logique, le gamin n'y va pas comprendre, parce que à haut niveau, je ne sais pas les sanctions qu'il aura, mais c'est vraiment pas une bonne image. Et moi, c'est ce que je retiendrai d'hier soir, c'est que, certes, l'OM a perdu, ça c'est un autre débat, mais ça donne pas une bonne image à nos enfants. Une fois de plus, voilà, un joueur qui, effectivement, s'est fait insulter, comme l'a dit un supporter
à la télévision ce midi et encore ce soir, mais malheureusement c'est la règle. On sait très bien que quand on va dans un stade, si tu joues pas bien, ben les supporters
t'inactivent.
Mais toi aussi le dimanche, si tu loupes une passe, tes supporters ou les supporters adverses, ils vont te chambrer. C'est pas pour ça que tu vas aller leur donner un coup de pied.
Que ça fait partie de d'un respect.
Malheureusement, je dis pas que
c'est le football quoi. C'est
parce que
voilà, bon.
Donne pas raison aux supporters qui insultaient Evra. Soyons clairs.
Mais bon. Ça fait partie
du jeu.
C'est du jeu, voilà. Bon, peut-être que dans les pays anglo-saxons, ça l'est moins, mais je pense que des villes chaudes comme à Marseille, voilà, c'est récurrent,
oui,
le joueur
n'est
pas bon. C'est en signant à Marseille, ils savent à quoi s'attendre, quoi.
Exactement.
Et surtout, bon, son âge, il a un gros palmarès, faut respecter ça aussi, quand même. Ça a été un super joueur, mais je pense qu'il est dépassé, et que, en 10 ans.
Oui,
les gars, on parle d'un mec qui est quand même, il a un palmarès exceptionnel.
Oui,
il n'a pas
c'est un final de
recordman français, voilà.
Un final de Coupe d'Europe, non, mais, je dis pas.
Non, mais c'est un beau joueur, si il ne remet pas en cause,
C'était un beau joueur. Après, aujourd'hui, j'ai peut-être dépassé, mais bon, il doit prendre sur lui, et I love this game, comme il dit, tranquille, quoi.
I love this game, mais il vient d'avoir un nouveau record, un carton rouge à la 1000-0 à Ligue Europa, bravo. Et moi, sur le sujet, je vous avoue que j'ai franchement rien à dire, quoi. Car au bout d'un moment, c'est un garçon qui s'est racheté une conduite, qui est revenu dans l'équipe de France après l'épisode de Nice. Voilà, moi j'ai envie de dire, c'est bien que Marseille soit parti sur ce Champions Project avec un garçon comme lui et Payet, ce qu'on veut. Mais voilà, pour l'affiche et pour
son emprise carrière.
Son emprise dans le vestiaire et pouvoir donner un des plus supérieurs. Mais là, c'est vraiment du n'importe quoi. Il y a Mavi qui est largement au niveau, il y a des petits jeunes, derrière, Camara, okay, c'est bon. Au revoir, merci. Le dans le staff à la limite. Hein. Mais là, c'est la saison de trop. Il est cramé, le mec.
Il est vraiment cramé. C'est exactement pareil.
Il est cramoisi, il a rien à faire là. Il donne une image détestable du club.
Du club, exactement.
En plus, il prend un rouge dans les vestiaires. C'est le grand cirque avant le match. Moralité, ils remettent Vitoria, qui était cuit, cramé, un petit nul, on va dire. Et c'était quasiment fait pour la suite de l'Europa League. Donc là, non seulement, il montre une image détestable du club, mais en plus, il met le vestiaire en difficulté. Et avec cette défaite, avec ta relance Vitoria, bêtement, parce qu'ils avaient les clés du camion, comme on dit. Pour moi, le sujet, il est plus que réglé, quoi. Voilà, tu auras arrêté ta carrière sur un nouveau record. Carton rouge à la minute 0 en compétition européenne. Voilà, à la limite, ce jour-là, il aurait mieux fait de ne pas descendre du bus, contrairement à l'année. Ça lui aurait mis éviter de mettre un high-kick un peu loupé en plus. Donc c'est bon, que maintenant ça suffit, je pense que la mascarade a assez duré, et de toute façon ce garçon a trouvé sa reconversion, parce que quand tu es cramé sur le terrain comme il est, que tu passes 4 heures à préparer une vidéo pour amuser sur Halloween, qui s'amuse, qui passe
4
heures de prépa, au lieu d'aller à la muscu, ou au lieu d'aller essayer d'être une bonne doublure du petit Amavi, qui avance, qui aura une très très grosse marge de progression, le garçon préfère passer 4 heures à préparer Halloween pour une vidéo sur Insta, bonne continuation à toi, quoi.
Tout le monde est d'accord pour dire, c'est terminé,
Et de toute façon, ça va servir à quoi? Qu'il reporte le maillot en Coupe de Ligue, parce que là, lui, il est
pas
en
train de
tirer la tête. Parce que Cyril, on ne le reverra plus, ce maillot marseillais.
Non, mais admettons même, je vais te dire, l'UEFA va lui mettre une sanction. On va se rappeler d'un ancien joueur de Manchester, puisque c'est, à mon avis, le seul point de commun qu'ils ont, c'est Eric Cantona. Quand il a lâché son coup de pied, on se souvient de la sanction qu'il a prise. L'UEFA va lui mettre un coup de bambou. Et quand bien même, il n'y a pas extension en compétition nationale, il va jouer quoi? Un 32e de finale de Coupe de France où il va se faire insulter par public visiteur et le siècle. Et pour le salaire qui prend à 6 chiffres. Reste à la maison, fils. Et
Fais des vidéos
des vidéos et puis si tu peux choper un dernier bon contrat à l'étranger pour 2-3 ans en Inde ou au Qatar ou dans un pays asiatique qui veut se lancer en Chine ou ce que tu veux, va prendre un dernier billet et laisse-nous tranquille. Voilà.
Voilà, je pense que Marseille a fait une erreur en le recrutant, moi, parce qu'il a
pas. C'était pas nécessairement une erreur. Mais c'était pas nécessairement
une erreur, mais.
Mais quand tu as Doria, Rolando, qui n'était pas à son niveau actuel, et toutes les pipes que tu avais derrière, Vulcan, et je sais pas ce que tu vas me raconter, ouais. On va dire Kievra sur une jambe, ça pouvait t'apporter un truc, et ça te l'a apporté plus dans le vestiaire. Et maintenant, merci.
Il a fait, bon, allez, 2-3 bons matchs, je crois qu'il a fait un contre Monaco.
Ça va. Saka est revenu au niveau de l'autre côté. À ma vie, il est une excellente recrue. Le petit Camara qui a la polyvalence en plus rentre dans le groupe, il y a Rukia derrière qui arrive. C'est bon, merci. Voilà.
Mais je pense que justement, ça va permettre à Rukia de pouvoir un peu,
C'est bon, ce petit. Bon, voilà.
Moi, je l'ai vu dans les matchs de préparation. Bon, voilà, on va pas là, il faut qu'il confirme, mais il faut déjà qu'il débute. Mais je pense que oui, en plus c'est vrai coincé ce petit jeune, je pense. Le fait qu'il était là dans le groupe, ça va peut-être lui donner une place.
Pour justifier le salaire à
Chico,
maintenant au revoir, tu as fait une connerie. Merci d'être venu.
Voilà.
En tout cas, merci Romain d'avoir donné ton avis sur ce sujet. Et merci surtout d'avoir présenté ton club au doigt.
Et merci à vous de vous intéresser au football amateur.
Et c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour nous de mettre en avant tous les clubs de la région.
Et
chaque vendredi, on fait le tour de la région. Aujourd'hui, donc c'est la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude. Et maintenant, on va voir une personne du Gard. Et la semaine prochaine, ça sera notamment le Gers. Et c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir. Et on espère que ça perdurera longtemps. En tout cas, merci Romain.
Merci à vous.
Et bonne chance pour ce week-end. Je donne la parole à Cyril pour qu'il nous fasse un top score avec nos Nîmois qui...
Tu parlais du Gard, ben là c'est pas Kurzawa pour le coup, c'est Bozok qui nous fait son petit triplé. Bozok du côté des Cochères, 3-0 pour Nîmes Olympique désormais devant TVI Rouen. On a un œil aussi du côté de la Terre Ajaccio qui était dauphin du Stade de Reims avant le coup d'envoi de la journée, qui est toujours mené par Châteauroux 1-0. Pour l'instant, Nîmes Olympique est toujours deuxième de Ligue 2 et est toujours virtuellement en Ligue 1, donc pour prendre les photos ce soir du classement. On se gênera pas, et pour voir Nîmes Olympique en Ligue 1 dans la simulation Occitanie, je pense que ça fait quelques horribles pour voir ça pour le fun. Une autre belle image, c'est Rodez, qui est toujours leader de National 1, et ils étaient à 0-0 à la pause contre Créteil, et ont réussi à ouvrir le score à la 52e par l'intermédiaire de Maxime Brass, et ont aggravé le score par l'intermédiaire de Chougrani, donc 2-0 pour Rodez devant Créteil. Malheureusement, Avranches en terre biterroise a égalisé sur pénalty à la 50e minute du jeu. Donc tout va bien pour Nîmes Olympique et pour Rodez, tous deux en position d'accédant. Par contre, Béziers va devoir passer la vitesse supérieure pour disposer d'Avranches. Voilà pour les scores à 20 minutes de la fin des rencontres.
Et maintenant, nous allons accueillir Maxime Castillo.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Maxime.
Bonsoir. Alors,
Maxime Castillo, qui je le rappelle, est entraîneur de l'équipe U19 de Luchot, du Gaillac Club Luchot.
C'est ça, tout à fait, oui.
Alors, il faut rappeler pour nos auditeurs, et j'ai regardé, Luchot se situe à 15 km de Nîmes.
C'est ça, tout à fait.
Donc tu peux aller très régulièrement voir le Nîmes Olympique, j'imagine.
Tout à fait, on peut y aller très régulièrement, c'est pas très bien du stade.
Bon. Alors, avant que tu nous parles de ton équipe U19, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton club gardois?
Alors, oui, mon petit club gardois, alors, comme tu as si bien pu le dire, c'est à 15 km de Nîmes. On est un petit club familial de 200 licenciés, avec une équipe qui est montée cette année, une équipe senior première qui est montée en DH cette saison, donc du coup en Régional 1. Et un club très familial, très sympathique, où il y a toujours du monde au stade. Donc voilà. Voilà pour résumer un petit peu le club.
D'accord. L'équipe senior, les équipes seniors se situent à quel niveau?
En Régional 1, ils sont montés cette saison en Régional 1.
D'accord. Il n'y a qu'une équipe senior ou il y a une équipe réserve?
Il y a une équipe réserve qui joue en départemental 4. Donc du coup, voilà, il y a une équipe senior 1 en division d'honneur et une équipe réserve en départemental 4.
Quel début de saison fait l'équipe, font les équipes seniors 1 et 2? Est-ce que tu peux nous en dire
alors,
un peu plus?
L'équipe première fait un bon début de saison du fait qu'ils montent parce qu'ils sont classés 6e ou 7e si je ne me trompe pas. Donc ils sont au milieu de tableau et leur objectif principal c'est de se maintenir. Donc ils font un bon début de saison. L'équipe réserve a eu un peu de mal sur les premiers matchs et puis c'est bien repris là en gagnant leurs trois derniers matchs. Donc l'équipe senior se porte très bien. L'objectif est en priorité de faire maintenir l'équipe régionale 1 et de faire monter l'équipe réserve.
Un effectif senior de combien de personnes?
40 joueurs si je ne me trompe pas, j'ai les chiffres devant les yeux. 40 joueurs exactement. Ouais.
D'accord. Bon, mais ça c'est une très bon début de saison. Donc ouais, effectivement pour les seniors de Luchot. Alors toi personnellement, tu t'occupes donc de l'équipe U19. C'est bien ça.
C'est ça, tout à fait.
Combien d'équipes une équipe U19 dans le club ou il y en a deux?
On a une seule équipe U19, donc qui a un niveau en R2 en fait. Donc on a une seule équipe U19, on a une équipe U15 qui s'est créée cette saison, qui fait pareil, un excellent début de saison, parce que du coup c'était une équipe qui s'est créée là cet été, et du coup c'est tous les U13 qui montent, et du coup ils ont réussi à finir premier de leur groupe, donc ils passent en phase 2 niveau 1, donc on fait une très très grosse début de saison, et après malheureusement on n'a pas d'équipe U17, donc on passe directement au U19.
D'accord. Alors je te coupe 30 secondes, je donne la parole à Cyril pour... nouveau but au Costière.
Alors tu vas le faire alors.
Vas-y, je te laisse l'honneur. Je l'ai devant la télé, mais je te laisse l'honneur de m'annoncer le
quatrième but et le nom du buteur. Tu vas expliquer.
Vas-y, le nom du buteur, je te laisse annoncer le nom du buteur. Avec la crème gardois.
Comment ça, la crème gardois? On va laisser faire Maxime alors. Tu l'as devant les yeux, tu les suis ou pas?
Ouais, je les suis, je regarde le match, ouais, donc c'est Renaud Ripard qui marque le quatrième but, but et gauche. Donc 4-0 pour nous, moi.
Alors, et par contre, je vais t'annoncer, Cyril, en même temps, l'égalisation ajaccienne. Donc Ajaccio Châteauroux, un partout.
Tu veux me mettre en colère, hein, ou
je veux te... Non, mais le but, c'est quand même, avant la fin de l'émission, d'arriver à te mettre en colère.
Bon, ni mes secondes pour l'instant. Donc,
ni mes malgré tout secondes, c'est très bien. Voilà. Je reviens donc avec Maxime. Donc effectivement, l'équipe U19. Donc un effectif de combien de jeunes as-tu?
Alors, on est 23 joueurs et j'ai deux gardiens dans l'effectif. Voilà.
D'accord. Vous entraînez combien de fois par semaine?
On s'entraîne le mardi et le jeudi. On partage un demi-terrain avec les U15 et les féminines seniors. Donc, on s'entraîne deux fois par semaine. Donc, parce que comme on n'a qu'un seul terrain d'entraînement et qu'on partage toutes les catégories. Et puis, en plus de ça, il y a une équipe de rugby. Donc, c'est un peu délicat. Donc, deux entraînements mardi, jeudi. Et match, pour revenir à la conversation de tout à l'heure, vous les seniors, vous préférez jouer le dimanche après-midi, nous les 19, on préfère jouer le samedi après-midi plutôt que le dimanche matin.
Mais dans ton coin à Luchot là-bas, avec tous les bars et les boîtes et compagnie qu'il y a, parce que moi j'ai été invité à Luchot, hein, et je passe le bonjour à Christophe Pétavin et à toute la clique là, mais c'est un guet-apens leur village. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que si tu dois jouer un match le dimanche matin et que tu te pointes là-bas le samedi soir, c'est réglé, c'est forfait. Non, ils sont dangereux les petits là-bas. Mais méfiez-vous, Vincent, n'y met jamais les pieds. Si t'es invité là-bas, ne prévois rien le lendemain, on n'y va pas.
Voilà. Donc Cyril ne m'amène jamais à Luchot, s'il te plaît.
Non, mais moi j'y suis allé. J'avais fait il y a deux saisons, sixième tour. Sixième tour de coupe contre Rousson. Avec une fin de match comme on les aime dans le foot amateur, où t'es mené à 10 minutes de la fin, et finalement, c'est toi qui te qualifies. Donc c'est le cinquième ou le sixième tour de Coupe de France, hein, avec une ambiance sortie d'ailleurs, quoi. Et t'arrives dans un stade avec une toute petite tribune, tu te dis, bon, ça va être un match sympa, et à une demi-heure du coup d'envoi, tu vois les voitures défiler au loin, là-bas. Et ça arrive de partout, et tu te demandes où t'es tombé, et quand tu vois l'ambiance, t'as compris, quoi. Et c'est là que tu comprends vite hein, pourquoi un club de village comme celui-là arrive à avoir une équipe en championnat régional.
parce que c'est quand même 19 R2, avoir une équipe en DH quand même, et avoir une réserve compétitive dans les championnats assez relevés dans le district du Gard. Donc tu comprends tout à fait pourquoi les garçons sont intéressés pour aller là-bas. Mais moi personnellement, j'y suis allé deux fois sur Uchaud, c'est quand même à 200 km de chez moi, mais bon, ça valait le déplacement, quoi. Je regrette pas, et voilà, je remercie encore le club, Christophe, Jérôme, peine de m'avoir accueilli comme ça. Et ouais, c'est un club que j'affectionne particulièrement, même si ce week-end, je serai pas supporter, parce qu'ils étaient en terre catalane, au Marassier, à Argelès, qui a sorti, excusez du peu, Ébézier National 1, et pour l'Empezenas National 2 de la Coupe de France, et qui a accroché mercredi le leader, donc la réserve de Béziers partout sur sa pelouse, qui compte bien s'occuper du Gallia dimanche. Donc là, pour le coup, je ne serais pas supporter, mais c'est vrai que c'est un état d'esprit village au haut niveau, donc l'état d'esprit a été conservé, mais l'ambition est quand même présente, les 19 ans tournent sur le milieu de tableau, hein, c'est ça Maxime?
Justement Maxime, c'est la question que j'allais te poser, tu peux nous parler un petit peu de votre début de championnat, comment ça se passe hein?
Alors on a fait une très très bonne préparation avec de très bons résultats au match amico. Après on a eu le premier match contre Lunel où malheureusement comme beaucoup d'équipes, beaucoup de matchs dans la poule, les arbitres ne se sont pas déplacés, donc ça a été un peu compliqué. Bon, on a réussi à faire quand même un match nul et après on a réussi à gagner contre Saint-Christol. On a fait un faux pas à Montpellier-Saint-Martin, on avait 8 joueurs absents, donc c'était un peu compliqué. On fait un très très bon début de saison, on est dans l'objectif du maintien, parce que comme je le rappelle, l'objectif du club c'est que la régionale 1 et nous les 19 se maintiennent le plus rapidement possible pour justement faire monter cette réserve, pour qu'il y ait le moins d'écart possible, le plus rapidement possible entre la régionale 1 et la réserve. L'objectif principal c'est surtout ça. Après maintenant, je trouve qu'on est à notre place, on est en milieu de tableau, on est 4e, c'est très bien, l'effectif... Comme on a dit, c'est un esprit village, c'est vraiment que des copains. On a réussi à faire prendre l'osmose des nouveaux qui sont venus d'autres clubs, qui se sont de suite très très bien intégrés aussi, c'est grâce à tout le club, parce que nous ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler vraiment que sur le sportif, parce qu'il y a une partie bénévole qui festivités, repas. Fin de match, tout ça, on n'a pas à s'en occuper, donc eux, c'est vraiment, ils font un très très gros boulot, donc ça nous permet de nous concentrer vraiment que sur la partie sportive, et c'est super, quoi, parce que du coup, ça fait intégrer les nouveaux, parce que ça fait quand on veut faire des repas, il n'y a pas de souci, ils nous aident, donc c'est très très bien.
Oui, donc effectivement, c'est un club qui vit, je rebondirai un peu sur les festivités, comment ça se passe, c'est important, ça. Pour un club hein, qui est derrière des bénévoles hein, qui organise des soirées, comment ça s'organise, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors il y a des lotos qui sont organisés, après il y a des quelques festivités, la photo officielle du club où ça va justement le 23 décembre là, ça va réunir toutes les catégories, donc ça permet aussi de voir d'autres personnes du club, les parents des joueurs qu'on connaît, ça permet de se mélanger tous, de ne pas rester chacun dans notre coin, les 19 ensemble, les seniors ensemble. Donc c'est très bien de pouvoir voir un peu tout le monde. Il y a des stages qui sont effectués, il y a un stage la semaine dernière qui s'est effectué avec pas mal de jeunes. Donc voilà, après, quand nous, les jeunes, on a envie de faire, ne serait-ce qu'après l'entraînement, on va convivialité, en commandant des pizzas, les clubs nous aident, ils sont toujours présents dès qu'on a besoin de. Il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure de Christophe Pétarin. Christophe Pétarin, ça fait que 2 ans, c'est la deuxième année que je suis venu à Club Buchaud. Et je peux lui dire un grand merci parce que même au mois d'août, à ma classe, il m'a toujours répondu au téléphone. Donc c'est vraiment bien. Dès qu'on a besoin de quelque chose, tout le monde est là. C'est pas chacun dans son petit coin. C'est vraiment super, quoi. C'est vraiment un super club familial et on prend vraiment du plaisir, quoi.
Donc effectivement, c'est... Oui, et après, j'imagine aussi qu'un état d'esprit y est, comme celui-là, les résultats suivent, puisqu'il y a une osmose, il y a un groupe qui se crée, et comme le dit Cyril, c'est un club où il fait bon vivre.
C'est ça, tout à fait.
Moi, j'aime bien le discours de Maxime qui dit, voilà, quand on regarde les 3 équipes principales du club, je compte pas les féminines, bien entendu, on compte les 2 équipes seniors et les 19 ans, c'est-à-dire les 3 où les joueurs doivent faire passerelle, etc. Le discours numéro 1, ça a été
les seniors et les 19 peuvent assurer le maintien au plus vite pour faire monter la réserve. Et c'est des discours qu'on n'entend pas partout, où chacun souvent veut se tirer la couverture un peu à soi. Et là, on sent qu'il y a vraiment un état d'esprit général. Donc,
surtout.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'équipe première, il faut rappeler que seul le dernier devrait descendre en Régional 2. Le Gallia a pour l'instant 6 points d'avance sur le relégable. Donc on va dire que ça commence à compter. Donc je pense qu'ils vont vouloir prendre les points au plus vite pour passer Noël au chaud, comme on dit. En U19, il y a un championnat qui, à mon sens, après Maxime confirmera parce qu'il le vit toutes les semaines, mais manque un peu d'homogénéité. Parce qu'il y a quand même un écart de niveau entre les 7-8 premières équipes de la poule et les autres, mais on verra, puisque samedi, je crois que vous prenez Van Dargues, c'est ça? Qui est bas de tableau.
Van Dargues demain, voilà, c'est ça.
Voilà, vous allez demain.
Qui a fait de très bons résultats quand même.
Ouais,
qui a fait Van Dargues qui est le premier, quoi. Et ça fait quand même de bons résultats, donc ça va pas être évident.
Non, mais ça va pas être évident, mais c'est le genre de match où faut prendre les points pour après, par contre, essayer de faire monter cette équipe B. Ça fait quelques années qu'ils souhaitent réduire l'écart, justement, et c'est peut-être la bonne saison pour y arriver. Donc ouais, je comprends tout à fait. Je souligne l'esprit club et le fait de vraiment comprendre que c'est nécessaire pour le club d'avoir une équipe réserve qui se rapproche le plus possible de l'équipe première. Totalement d'accord.
Ce qui est bien, c'est quand on parle de l'esprit club, c'est que pareil, quand la première joue, il y a des jeunes de 15 ans, de 19 ans qui sont là. Et même nous, quand on joue le samedi après-midi, des seniors qui viennent nous voir jouer, des féminines, seniors féminines qui se déplacent pour nous voir jouer, on arrive quand même à se déplacer, à aller voir les autres équipes. C'est l'esprit club, il est là, c'est pas que chacun s'occupe de sa catégorie et s'occupe pas de notre catégorie. Moi, je suis pas tout seul je suis l'entraîneur principal des 19 ans, mais je travaille avec mon meilleur ami Johan, qui est pareil, quand il faut aller donner un coup de main à la réserve, ben, on y va, sans aucun souci, il y a pas de souci. On essaie de s'aider au maximum tous, et c'est comme ça que le club avance, quoi.
Bon, en tout cas, merci Romain d'avoir,
Maxime,
parce que décidément, je me trompe. Merci Maxime d'avoir présenté ton club et une fois de plus, ça fait plaisir de voir qu'il y a des clubs où il fait bon vivre et il y a un bon état d'esprit. Ça met du baume au cœur.
La dernière question quand même pour un gardois, on est un peu obligé ce soir. Crocodile, les deux ou pas? Non mais c'est le pronostic quand même, ils sont approchés.
Si on reste dans la régularité comme ça, oui, moi je suis pour, mais j'ai hâte de connaître mieux dans Ligue 1, parce que quand ils étaient en Ligue 1, j'étais tout jeune, donc j'ai pas. Mais oui, je suis pour à 200%, donc j'espère qu'ils vont y arriver, quoi.
Je taquine Vincent parce que tout à l'heure tu as su nous dire que Ajaccio avait égalisé contre Châteauroux.
Mais là, Châteauroux a doublé la mise et mène 2-1 à Ajaccio. Ouais.
Merci.
Donc c'est tout bénéf pour le niveau épique.
Voilà. Elle est pas belle la vie, tu vois.
J'imagine la semaine prochaine, peut-être Romain, que tu vas aller voir Nîmes, Marseille, Consola.
Je pense y aller. Après, je sais pas encore mon emploi du temps de la semaine prochaine, mais oui, je pense que je pense.
Alors, si je ne me trompe pas, le match aura lieu dimanche prochain à 20h45, 5, devant 47. Les caméras d'Europe. Eurosport, pardon.
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Exactement ça.
Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup.
Si je peux me permettre de passer un petit message.
Oui, il n'y a pas de souci.
De féliciter mon adjoint, qui est aussi mon ami, parce qu'il a eu un petit garçon il y a quelques jours, donc je me permets aussi pour le féliciter de la venue du petit Léo, et j'espère qu'il va nous apporter beaucoup de chance pour cette saison, que tout le monde se maintienne et que la réserve monte dans le département local, le 3. Voilà.
Et félicitations aux parents et pour cette naissance, en tout cas.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci Maxime et à très bientôt. Avant de laisser, pour terminer, la parole à Cyril qui nous donnera les résultats de la Ligue 2, une nouvelle rubrique dans notre émission. Les annonces des clubs. Donc, si vous aussi vous souhaitez faire passer une annonce, voilà, un vendredi. N'hésitez pas à nous laisser un message sur notre site ou sur nos pages Facebook. Alors ce soir, deux petites annonces. Une annonce d'un club de Haute-Garonne, le FC Montartre-la-Conseillère, qui organise son vide-grenier le dimanche 12 novembre, donc à Montastruc. Donc pour les inscriptions, vous pouvez contacter le 07 69 01 20 60. Donc je répète, 07 69 01 20 60 ou bien le 06 87 04 38 61. Je répète, 06 87 04 38 61. Et nous souhaitons à ce club de Montastruc, la conseillère, dont je tiens à saluer la secrétaire Béatrice, que ça leur amènera beaucoup de monde. Et pour terminer, une annonce de l'UAF Fenouillé, qui organise un concours de pêche ce week-end, donc demain et dimanche, au lac de Vernières, à Fenouillé. Donc les inscriptions au lac à partir de 7h et le concours de 8h à 18h. Et je salue tous mes amis fenouillétaires. Voilà. Cyril, je te laisse pour terminer la parole avec l'annonce des résultats de Ligue 2 et de National.
C'est pas terminé, on est dans le temps
additionnel. C'est pas terminé, ouais.
Sur pas mal de choses, on peut annoncer que Patrick Sévra est exclu à 0-0, histoire de revenir sur le débat.
Oui.
J'ai pas envie. Non, les scores à quelques minutes de la fin des rencontres, la très bonne nouvelle, puisqu'ils vont s'imposer, aucun souci là-dessus. Et ils prennent la deuxième place de la Ligue 2, Nîmes Olympique, qui s'impose largement devant Téville, Rouen, Métropole et les Crocodiles, qui s'impose notamment grâce à un triplé d'Oumout Bozok et un quatrième but de Renaud Rifard. Et comme dans le même temps, il semble que l'ACA Ajaccio n'ait pas envie de revenir au score contre Châteauroux, c'est magnifique pour Nîmes Olympique qui est désormais second à 2 points du leader Reims. Rappelons que Reims ne joue pas ce soir et jouera lundi soir, et ce sera un périlleux déplacement au Havre devant les caméras de Canal Plus Sport. Donc lundi soir, le stade de Reims qui est donc leader avec 30 points, deuxième Nîmes Olympique avec 28 points, troisième l'AC Ajaccio 27 points. Quatrième, le FC Lorient, 26 points. Les autres scores, Lorient, donc match nul du côté du Paris FC, un but partout. Le Gazélec Ajaccio s'est imposé à Auxerre, 1-0. Clermont Foot s'est imposé à Niort, futur adversaire de Tournefeuille, 1-0, ce qui peut donner peut-être des idées à Tournefeuille. L'Orléans et Sochaux ont fait match nul, 3 buts partout. Tours s'est enfin imposé, première victoire de la saison, devant Bourg-Péronas, 3-2. Et enfin, score nul et vierge entre Valenciennes et Brest 0-0. On va jeter l'œil du côté du National. Rodez, notre leader, s'est imposé 2-0 devant Créteil grâce à des buts de Rass et de Chougrani. Bravo aux Rutenois qui restent donc en tête. De l'autre côté, c'est pas terminé, c'est les dernières secondes, Béziers et Avranches se dirigent vers un match nul, un but partout, dommage pour les Biterrois qui menaient 1-0 à la pause, mais avant je suis revenu sur penalty et les Biterrois sont en train de terminer à 10 après l'expulsion de Taillant, malheureusement, donc un partout entre Béziers et Avranches. Les autres résultats, le Restart s'impose à Saint-Gratien dans le derby parisien, 1-0, large victoire des Picards de Chambly contre Marseille Consola, 3-0, Boulogne-sur-Mer s'est imposé devant Dunkerque, 1-0, Pau est allé s'imposer à Concarneau, 2-0, victoire également, ça intéressera Fabrice Dubois, qui est l'invité de Vincent ce soir, Cholet qui s'impose du côté des Herbiers, 2-0, donc le futur adversaire de Tournefeuille et le futur adversaire de Balmain ont tous deux été battus à championnat. Est-ce que ça peut donner des idées à nos clubs? Pourquoi pas, au classement en national, Rodez reste donc en tête avec 22 points, deuxième Cholet, troisième le Restart. Pour l'instant, les Biterrois restent à la sixième place du classement. Voilà Vincent pour le bilan à quelques secondes de la fin.
Et je terminerai en disant qu'à la 50e minute, les Rennais mènent toujours 1-0 contre les Girondins de Bordeaux. Donc on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je remercie tous nos invités, pardon. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Football Occitanie Show. Avec au programme, je vous donne un petit discours pour la semaine prochaine, nous aurons un représentant de l'US Lectour, donc nos amis Gersois, et du FC Saléchois. Et pour le reste, c'est
et pour
la
le
surprise.
Reste, on aura un représentant du CE Palavas, club de l'Hérault, et un représentant du FC Val de Chaise, club gardois de département de l'Ain. Voilà pour le programme de la semaine prochaine.
Voilà, et n'hésitez pas donc à aller sur notre site tout ce week-end pour voir les résultats. Nous essayons d'être le plus complet possible et, je vous le rappelle, nous prenons avec plaisir toutes vos réactions. Voilà, Cyril, je te souhaite une bonne soirée. Faites bien la victoire à Gardoise et à bientôt pour de prochaines aventures.
Et à ce week-end, pensez à nous envoyer vos scores. 1300 matchs ce week-end dans 700 seniors. On compte vraiment sur vous. Dès la fin des rencontres, envoyez-nous un SMS avec vos résultats. Merci.
Merci. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Bon match à tous. Et que le meilleur gagne.